Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Merci d'écouter Un Bon Moment en podcast. Il y a de grandes chances qu'actuellement on soit en tournée et que Navo soit en première partie. Donc venez nous voir sur unebonnesoirées.fr. Bisous, bonne écoute.
T'y vas là ?
Rendez-vous sur unebonnesoirées.fr.
Déjà, je termine dans l'émission. Attends, coupez la caméra, deux secondes. Attends, quoi, nique ma mère. Attends,
nique ta mère.
Nique ta mère. Mais je t'emmerde, moi, de te faire.
Moi, nique ta mère.
Quoi ?
Nique ta mère.
Attends. Et non, ça n'arrivera jamais cet extrait puisque ça n'est pas dans l'émission. C'est un faux extrait en début pour happer l'attention. C'est un bon moment générique.
Non, je suis devenu parano dans la est-ce que tu vois, par exemple, on va faire l'émission.
Ouais, elle a déjà commencé.
Et
en
après
fait,
l'émission,
ça a commencé.
Je t'ai
eu. Ouais, t'as vu tout ça, c'est ça le vrai talent journalistique.
Ah, j'avoue. Tu devrais demander une carte de presse, du coup.
Bah ouais. Bah,
tu leur montres ça et ils vont te la donner.
Bah, c'est vachement bien.
Par exemple, là, on va faire l'émission et après tout le chemin du retour.
Je vais
me refaire l'émission pour savoir si j'ai dit des bêtises, si j'ai bien dit ce que je pensais, si j'ai été agréable avec tout le monde, si j'ai dit bonjour à tout le monde, si j'ai machin, tu vois. Donc en fait, je fais des focus sur des trucs.
T'as peur de déconner en fait. Alors qu'avant tu t'en foutais.
En fait, j'ai peur de. Ouais. Alors après, je pense que c'est pas que je m'en foutais avant. C'est que quand tu bois et tout. Enfin, j'étais juste dans un autre mood. Le avant, j'étais dans un côté.
Ça éteignait le dragon en même temps. Cette voix-là, elle n'arrivait plus quoi.
Ça éteignait le dragon.
L'obsession n'était pas là derrière. Bah, ça calmait les obsessions.
J'étais dans un truc de je picole, je m'en bats les couilles, tu m'emmerdes, je t'insulte. Voilà. C'est que j'étais dans un délire un peu comme ça. Et puis après, quand tu arrêtes après de boire, quand tu arrêtes de te droguer, tout est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a pas de problème d'addiction, même quelqu'un qui a pas de problème de drogue, bon, il va quand même aller le samedi ou je sais pas le vendredi ou le jeudi, n'importe quel jour dans la semaine, il va se dire bon bah tiens, j'ai mon moment où quand même je vais aller décompresser, je vais aller picoler un peu et tout. Et n'importe quelle drogue que tu prends t'apporte une espèce de moment, même s'il est fictif, même s'il est pas réel, ça t'apporte un moment de décompression, ça te shoot, c'est le principe, tu vois, sinon tu bois de l'eau.
Un lâcher prise, tu veux dire?
Ouais, ça t'apporte un c'est un lâcher prise artificiel.
C'est anxiolytique, c'est un décompresseur.
C'est un dépresseur en même temps, ce qui est compliqué avec l'alcool, par exemple, mais ça t'aide. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que quand tu t'octroies et quand tu t'accordes des moments, que ce soit de manière excessive comme moi ou de manière même un peu festive, bah, t'as quand même des moments où tu sais que tu vas avoir un espèce de truc où tu vas plus penser à tes soucis, ou alors quand tu vas penser à tes soucis, ça va plus rien te faire. Quand du matin au soir, t'es à l'eau, il n'y a plus ces moments-là. Donc, du coup, forcément, tu fais un peu plus attention à tout, parce que quand tu es un angoissé, parce que quand tu es dans les excès, comme moi j'étais dans les excès, c'est parce que tu as plein de problèmes, tu as plein de démons, tu as plein de machins dans ta tête. Bon. Donc, du coup, tu cumules. Et donc, comme tu sais que tu vas devoir affronter chaque minute de la journée, du matin au soir, avec lucidité, que tu n'as plus rien pour t'évader, bah, tu fais un peu plus gaffe, tu vois, à ce qui pourrait éventuellement t'angoisser dans la journée. C'est plus ça.
Je comprends tout à fait. C'est ouais. Un peu la sursécurité, en fait.
Ça devient la sursécurité. Et comme j'étais déjà dans une espèce d'hypermaîtrise avant, je pense qu'en fait, quand tu te drogues, après, ça dépend des gens, moi, j'avais déjà un problème de maîtrise. Donc déjà, je me droguais pour, je pense, me dire, bon, bah, je ressens plus, j'ai une espèce de lâcher prise. Mais du coup, quand tu bois plus, quand tu prends plus de médicaments, tout ça, bah, du coup, il faut tout maîtriser encore plus. Donc, il y a des choses qui s'améliorent et des choses qui s'accentuent, quoi.
Ça, c'est compliqué pour toi, mais ça doit détendre ton entourage, du coup. Le fait que tu sois moins gainsbourgien et plus plus consciencieux, de se dire en fait tu prends conscience que tu peux être ton pire ennemi et faire du mal aux gens.
Je pense que ça les a rassurés beaucoup, parce que déjà j'ai quand même mon meilleur ami, mon associé, a quand même retrouvé au bord d'une fenêtre à 20 mètres de haut, donc forcément.
Tu réparais les fenêtres. Ça n'a rien à voir. Tu réparais juste la fenêtre.
C'est au rez-de-chaussée en plus.
C'est au rez-de-chaussée. Tu le dis pas ça dans tes histoires. C'est vrai que C'est moins grandiloquent quand tu dis que t'es au rez-de-chaussée.
Non, mais disons que c'est vrai que du coup, quand ils te retrouvent... donc ça les rassure à ce niveau-là, parce qu'ils se disent, bon, bah déjà, il a quand même moins, on a quand même moins de chance de le retrouver en haut d'une fenêtre. Et après, c'est un peu une.
T'en parles dans ton spectacle, ça.
Ouais, j'en parle dans
ton
spectacle.
Tu commences là-dessus, je crois.
Alors, je commençais, puisque là-dessus.
Tu commences en dansant. En sautant. Tu commences toujours en sautant le spectacle.
J'ai un moment où je saute, ça dure.
Tu te chauffes.
12-13 minutes environ, et après, j'attaque vraiment le spectacle, mais ce moment de saut est hyper.
Hyper important.
Hyper important. Non, je commençais comme ça, maintenant, je commence un peu différemment, puisque avec le Covid, du coup, j'ai réadapté un peu le spectacle.
Si je peux me permettre, tu fais un spectacle en ce moment. Alors, l'émission, elle ne sera peut-être pas diffusée pendant cette tournée actuellement, mais tu vas le jouer encore de façon pas mal de temps. Tu en es encore au début de ton exploitation de spectacle. Tu fais un spectacle sur le milieu médical. Ça s'appelle...
Anesthésie générale.
Anesthésie générale, c'est sur le milieu médical. Tu utilises plein de thèmes qui sont un peu... Tu bouscules un peu les idées reçues qu'on a sur le milieu médical, qu'on a tous accepté depuis des années en mode « oui, ça existe, bon, bah, c'est comme ça ». Tu bouscules un peu justement les idées établies. Et justement, là, t'as commencé, je me rappelle, on était en tournée ensemble, enfin tous les deux. Je disais, t'as vu, il y a un virus, on peut plus. Moi, ma date a été annulée. Ah ouais, toi aussi, machin et tout. Et il y a eu la pandémie, donc forcément, tu peux pas ne pas en parler du Covid.
Bah oui,
donc,
là, je me souviens qu'on avait même fait un petit groupe.
Entre Maurice.
Avec Verino, je crois. On était 3-4 et on se disait, putain, moi, il m'a annulé la date, moi, il m'a annulé. Ah ben non, moi, c'est bon, je peux jouer. Et parce que t'avais les maires et les préfets qui commençaient un peu à avoir des réactions un peu différentes. Il y en a qui annulaient et tout. Et oui, le spectacle, effectivement, il est sur le. Alors, il y a deux pans dans le spectacle. C'est, on va dire, le système de santé, donc vraiment de la dénonciation de l'abandon de l'État en ce qui concerne le financement du système de santé public. Et puis, un peu comme j'ai fait avec Vente de pièces à Beyrouth ou Alléluia Bordel, donc là, c'est très documenté. C'est vraiment, je suis allé dans les urgences, je suis allé rencontrer... Enfin, j'ai fait le même travail un peu que je fais sur tous mes spectacles.
Et Vente de pièces à Beyrouth, tu l'as commencé quand? C'est quoi la première date du spectacle?
2015.
Voilà. C'est juste pour
c'était
voir
si juste c'est... après le Bataclan.
C'était juste après le Bataclan.
Okay, voilà,
j'ai commencé trois mois après le Bataclan.
Je voulais juste savoir si c'était avant ou pas, parce que sinon, tu portes la poisse, mon pote.
Mais non, mais c'est
jamais un spectacle. C'est à chaque fois qu'il commence un spectacle, après, trois mois après.
Mais
genre...
c'est ça. Ouais. En fait, c'est le cas. C'est-à-dire que c'est terrible. Quand j'ai attaqué le premier spectacle sur la religion, au moment où j'attaque, on a cette espèce de crise communautaire en France où il y a des débats tous les jours de quelles sont la place des communautés religieuses en France et tout. Débats sur la burqa, sur les minarets, l'affaire Dieudo.
Si tu te rappelles, d'un moment donné, c'était important ça, les minarets.
Ouais, mais il y avait un débat énorme. L'affaire Dieudonné, le changement de pape et tout. Enfin, donc j'arrive en plein dans ce merdier-là. Ensuite, j'écris un spectacle sur le terrorisme et on arrive pile au moment où il y a Charlie Hebdo, les terrasses, le Bataclan, l'hypercachère et tout, je suis en plein dedans. Donc moi, j'attaque trois mois après le Bataclan et j'ai écrit un spectacle effectivement sur le terrorisme.
Est-ce que tu peux écrire un spectacle où je me fais sucer pour le prochain? Je me fais sucer de ouf. Tu peux faire ça, s'il te plaît?
Je peux essayer.
Je suis co-auteur, tu veux, je t'aide et tout. Hein. On l'écrit vite fait.
Déjà, cette vanne me fait rire. Hein.
Voilà, tu le fais deux, trois fois. Voilà.
Je vais y penser. Ce sera certainement par ma mère, parce que tu sais, je parle beaucoup de ma mère dans les spectacles. Mais si t'es pas contre les vieilles.
Moi, je sais pas,
elle
est sur Tinder.
Elle commence quand même.
Elle est bien roulée.
Tu veux voir une photo?
Et le troisième spectacle, Anesthésie Générale. Donc, je fais un spectacle sur la santé et ça commence même effectivement. Alors, ça commence au moment où j'attaque le spectacle. Là, il y a la grève historique des urgences françaises, là où ils vont gazer les soignants dans la rue, où il y a les CRS contre les soignants. C'est quand même des images terribles.
C'est pour les préparer à mettre des masques et tout.
Voilà. En fait. Et derrière,
ça qu'on comprend pas avec ce gouvernement.
Et derrière, j'ai ce problème de. J'ai ce problème. Je pense qu'on est plusieurs en France de pandémie.
J'ai ce peut-être le mec vraiment très auto-centré. Et là, j'ai ce problème de Covid. Ça n'arrive qu'à moi ce genre de truc. Ah, c'est relou.
Compliqué quand même parce que. T'es un des rares artistes à être totalement en production.
Alors, pardon,
toi-même.
Juste le deuxième pan, c'est quoi? Je crois que je t'ai
mais
coupé.
Tu sais, pardon. Après le premier pan.
Déjà, je me suis retenu de faire des blagues avec le pan, l'oiseau.
Il y a un premier pan sur le système médical. Exactement. Donc, c'est vraiment un truc très journalistique, comme je fais avant. C'est-à-dire, il y a des recherches, machin. Et c'est vraiment de la dénonciation du système. J'ai vraiment étudié, en fait, comment on est passé du système numéro un au monde à devoir, là, en pleine pandémie, donner des sacs poubelles aux soignants parce qu'on n'a plus assez d'argent pour leur filer des surblouses. C'est ça qui est intéressant. Alors, avant, je m'arrêtais avant la pandémie, mais grâce à la pandémie, entre guillemets.
Grâce? Bah ouais, génial.
J'ai pu
non, mais c'est un fournisseur
agrandir le spectacle. Et du coup, voilà. Donc, du coup, en fait, ce qui est bien, c'est que toute cette partie qui était sur la santé déjà, ben finalement, elle fait totalement écho à ce qu'on a vécu. Parce que moi, j'étais déjà en train de dire avant la pandémie, si un jour il y a un gros problème, on ne saura jamais gérer parce que le système de santé français français est à l'agonie. Donc là, si tu veux, bah, j'ai eu malheureusement un exemple grandeur nature de ce que je disais déjà dans la première version du spectacle, que tu as vu. Hein. Tu te rappelles, tu vois, je fais tout le système, je fais l'historique de la sécurité. Je saute 12
et
minutes.
Après, tu fais d'abord.
Après, tac, j'attaque voilà. Donc ça, c'est le premier pan.
Il y a un pan où il saute.
Je ne sais pas comment rebondir à tes vannes sur les pans. Alors, je fais comme
pourtant,
si...
on t'a vu rebondir pendant 12 minutes.
Oui, mais c'est pour ça, je fais tout sur le spectacle. Mais après, dans la vie, rebondir sur les pans, c'est. Et toute la deuxième partie du spectacle, c'est un travail sur... c'est pour le coup, c'est mon carnet de santé à moi. Quoi. Donc, c'est vraiment tout... J'explique aux gens mes problèmes d'alcool, ce que j'ai découvert en cure de désintoxication, donc tous les troubles psychiatriques qu'on m'a décelé là-bas, etc. Donc,
c'est marrant personnel. Dans ce sens-là. C'est que tu commences par le général et tu vas vers l'anecdote.
C'est un peu mélangé. En fait,
il revient des fois sur lui et il repart sur un sujet, il revient sur lui, il repart sur un sujet. C'est assez smart, c'est fluide. Moi, j'ai vu la deuxième, je crois.
Deuxième
à Paris, t'en avais fait 20 ou 20, 25 en tournée.
Voilà, c'est ça. On avait fait des rodages avant et après, il y avait Paris et t'as vu la deuxième à Paris.
Pour expliquer, quand on écrit un spectacle, on le rôde. Donc, c'est pas du tout le cliché. Ah, vous allez tester en Provence avant d'aller à Paris. Non, on rôde dans des petites salles.
Ah oui, non, c'est même pas une question de rôde.
Non, c'est pas une question de Paris. Première, c'était une sorte d'opposition qui se crée dans les gens.
C'est du parisianisme.
Hein?
C'est du mépris et du parisianisme.
Mais non,
genre, je peux pas le faire directement à Paris. Je vais d'abord rôder sur les péquenots, là.
Alors, ce qui est marrant, c'est que personnellement, j'ai rodé un an sur les Parisiens avant de partir en tournée.
Je te provoquais.
Tu m'as provoqué. J'ai répondu à cette provocation. Je n'aurais pas dû.
Mais non, j'étais ouvert justement pour que tu puisses clarifier.
Mais pour expliquer, on écrit un texte et on est marrant. C'est ça aussi. C'est qu'on a besoin de pratiquer, de l'avoir dans le corps.
Moi aussi.
Personnellement, je suis encore.
Voilà. Toi, je sais que t'as besoin de.
C'est vrai que j'ai besoin de travailler.
Non, mais oui, en fait, il y a tout le temps. Un spectacle, il a vraiment besoin de mûrir. En fait, toi, t'écris un texte, tu mets le maximum pour que ce soit drôle et puis après bah tu le testes.
Tu écris 2h30 toi t'écris 2h 3h à chaque fois.
Ouais. Alors en fait en vrai j'écris 4h et puis après je coupe.
C'est ça.
Parce que donc j'arrive, j'ai 90 pages, je dis ah, c'est un peu long quand même. On fait des lectures, on dit combien ça fait, 3h15. Bah donc du coup sur scène
mal au cul les gens, mal au cul à la fin du spectacle.
Donc non, en fait
il y a quelqu'un qui pointe, qui dit bon là par exemple c'est pas marrant pendant 8 minutes d'affilée, peut-être c'est un peu long.
Mais là j'ai mal au cul.
En plus c'est vraiment comme ça que ça se passe, c'est compliqué parce que en plus comme tout est lié,
Tu pars des idées, ce qui est la meilleure chose à mon sens, en tout cas dans notre méthodologie, c'est que tu pars de l'idée, c'est-à-dire que tu pars en disant je vais me renseigner et maintenant il va falloir que je trouve la manière la plus drôle de le dire. Tu pars pas d'une blague.
En fait,
j'ai pensé à un truc sur les cornflakes, va falloir que je me renseigne sur les cornflakes.
Oui, t'es très Wikipédia, t'es très méthodique, t'as des classeurs, t'as des sources sur scène, tu dis à la fin du spectacle, tu dis tout est dans ce classeur si vous voulez regarder.
Alors, ce qui est faux, personne n'a jamais ouvert.
Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est une vraie carotte sur le coup, et ça, bien joué. Ces gens disent, il a dit que c'était sourcé, c'est bon.
En fait, je fais vraiment comme un entonnoir, c'est-à-dire que, par exemple, pour la santé, on a dit, OK, quels sont tous les thèmes de la santé? Donc, on a fait un grand tableau, on a mis tous les thèmes, après on les a rassemblés, machin, et on commence à étudier, on survole chaque thème. Et dans chaque thème, on trouve un truc qui est cool, on resurvole, cool. Et à la fin, on a une dizaine de thèmes. Et on se dit, OK, là, on a 10 trucs intéressants sur 10 thèmes. Tu vois, et après, je creuse un peu plus profondément chaque thème. Et là, je dis, ah ouais, ça, c'est vraiment cool. Et après, je vois ce qui m'inspire le plus, tu vois. À la fin, j'ai 7, 8, 9 thèmes. Je me dis, OK, celui-là, il m'inspire grave. Celui-là aussi.
Tu peux te lasser et changer en cours. Tu peux... Non, une fois que tu as trouvé le truc, tu kiffes, tu y vas, quoi. Tu fonces.
Ouais, non, généralement, pour le coup, je sais, par exemple, il y a des humoristes qui font ça. Moi, je sais pas faire ça. Mmh. C'est aller avec un texte, tu sais, un peu en mode, je suis en rodage. Et ils arrivent avec quelque chose qui est pas complètement prêt. Le public est au courant. Ils vont sur scène, ils sont hyper détentes. Ils disent, voilà, je suis en rodage. Ça, je raye, ça, j'aime pas.
T'es dans une... À un moment donné, tu lâches ton texte, t'es même plus dans ton propos. Ton propos, tu l'as sauvegardé au début, mais t'es plus dans une performance. Parce que moi, quand je te vois, la dernière fois que je t'ai vu, c'était aux Folies Bergères, t'étais dans un stade d'épuisement, t'avais plus de voix, t'as rien, et tu criais sur scène, t'étais à fond, et je me disais, waouh, à un moment donné, t'es même plus dans ton texte, t'es dans la performance et le lâcher prise et le don de soi, ou t'étais vraiment. C'est pour ça que je dis, quand tu sautes au début, tu t'échauffes.
Il y a
un truc très cardio, très fort, tu vois, quand t'es sur scène, c'est une performance. Moi, je suis très calme, je suis très posé. Après, j'ai des moments de jeu, mais là, t'es waouh.
Ben, en fait, je crois que ça j'ai vraiment un truc de comme. Ça, le mot va paraître très exagéré, mais c'est comme ça que je le ressens.
Génie.
Le génie,
ouais.
Non, mais vraiment, il y a vraiment un côté transe. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ça un côté, je ressens plus la fatigue et tout, machin, je deviens vraiment ouf, tu vois.
Ça se voit.
Je sens dans ma tête.
L'adrénaline.
Ouais, j'ai un espèce de shoot d'adrénaline et je sens vraiment que je deviens un peu ouf, tu vois.
Tu ressens ça aussi quand tu boxes?
Oui, il y a quelque chose qui se rapproche de ça. Mais comme j'ai pas vécu, à part plus jeune, là, mais j'ai pas vécu de moments de. Je pense que tu ne peux ressentir ça que dans un moment un peu extrême, donc peut-être dans la compétition, que j'ai fait de la compétition quand j'étais adolescent, mais j'en ai pas refait depuis en étant adulte. Enfin, j'en ai refait un tout petit peu adulte, mais pas assez pour ressentir ça. Mais je pense que tu ne peux ressentir ces moments-là d'adrénaline que quand tu es au bout du bout du bout. Donc je pense que quand tu es dans l'extrême de ta pratique ou de ton exercice, là je pense que tu peux le ressentir.
Du coup, est-ce que c'est un peu ta dernière drogue?
Ah oui, complètement. Le sport est ça. Ouais. Le sport, c'est ma petite drogue quotidienne pour avoir un shoot d'adré et de me sentir bien, un peu d'endorphine.
T'es dans une guerre de maintien de substances, en fait.
Je suis totalement. En fait, comme je suis obsessionnel et excessif, je suis rentré dans le truc inverse.
Et alors, est-ce que tu peux juste dire exceptionnel, obsessionnel, excessif?
Qu'est-ce
que
exceptionnel ça veut dire? Aussi.
Alors,
excessivement aussi exceptionnel.
Mon bilan psychiatrique officiel, c'est que je suis.
Il est dans le classeur. Il y aura un classeur à la fin de l'émission. Si vous voulez vérifier, c'est vrai. Tout est vrai.
La liste officielle. Entre guillemets, de mes maladies psychiatriques, c'est que donc je suis alcoolique. Ça, c'est une maladie neurologique.
C'est un truc que tu es à vie, du coup?
Oui, oui, oui.
C'est-à-dire que tu as un récepteur qui est totalement ouvert à l'alcool.
Ouais, alors il y a.
Qui se refermera jamais.
Non, je peux expliquer de manière un peu. Je peux vulgariser un peu le truc. Ne m'envoyez pas 450 messages pour me dire oui, mais non, c'est pas exactement ça. Je sais, mais je vulgarise. Grosso modo, l'alcool. Alors, c'est toujours un peu compliqué de parler de dépendance parce que c'est une vraie maladie neurologique, la dépendance. C'est une maladie qui est reconnue par l'OMS, hein, qui s'appelle la maladie de la dépendance. La maladie de la dépendance et les émotions, je crois, un truc un peu comme ça. Donc, c'est une.
C'est
une maladie neurologique.
Ça veut dire que c'est diagnostiqué, c'est pas forcément de ta faute.
Ça n'est pas de ta faute.
C'est ça, par exemple.
Oh, il s'est laissé aller. C'est pas ça, tu vois.
Non, mais c'est important de le dire parce qu'il y a des gens, ils pensent que ils ont déconné et du coup, il y a le cycle de la culpabilité du oui, mais c'est ma faute parce que je m'affaute.
En fait, c'est un peu compliqué parce que je vais essayer d'être clair dans l'explication. Les substances sont addictives en soi.
Ouais.
Donc, tu peux ne pas avoir de maladie. Tu peux ne pas avoir cette maladie de l'addiction et devenir addict à un produit.
D'accord. Donc,
tu n'es pas addict, je te fais boire du Sky pendant 6 mois tous les jours, tu vas avoir besoin d'un sevrage parce que la substance est addictive.
D'accord.
Si je te force à fumer des clopes tous les jours, tu vas avoir un manque de nicotine à la fin de...
Mais je peux avoir un sevrage fini et un sevrage qui restera toujours ouvert.
Voilà, et après tu peux avoir, et après on va dire que certaines personnes ont des propensions à l'addiction qui sont... plus ou moins importante. Et dans cette propension à l'addiction, tu as une propension vraiment de base. Et puis, tu as après, si tu veux, va s'ajouter à cela, pour certaines personnes, des problèmes personnels, des problèmes psychiatriques. Tu vois, c'est un peu mon cas, etc. Donc, si tu veux, c'est un mélange de plein de choses. Mais tu as une base d'addiction, c'est-à-dire que quelqu'un peut ne pas avoir de problème dans la vie, ne pas avoir besoin de s'échapper avec une drogue et être totalement addict parce qu'il a un problème d'addiction. C'est une maladie neurologique. Et on va dire, donc pour expliquer dans les grandes lignes, on va dire que tu as une zone qui s'appelle la zone de récompense. La zone de récompense, c'est la première fois que tu vas manger de la papaye, par exemple, ton cerveau, il dit « Ah putain, on aime bien la papaye, c'est vraiment cool la papaye. » Donc toi, tu n'es pas addict. Bon, ben voilà, tu gardes dans ta tête que tu aimes bien la papaye. Puis un jour, tu vas repasser devant un truc de papaye. Tu vas dire « Tiens, je vais acheter une papaye, c'est vrai que j'aime bien. » Bon, ben on va dire que le mec qui a un problème de dépendance, il mange une fois de la papaye.
Le mec qui parle à l'île Maurice, quand même. Il a des exemples de...
Ça marche avec la papaye.
Ouais, mais avoue que l'explication, elle est chouette avec la papaye.
Il y a du soleil.
Tu vois, on sent un truc.
Le mot papaye est rigolo, en plus.
Et donc, le mec a un problème d'addiction. Il va manger une fois de la papaye. Il va dire, son cerveau, tout de suite, il dit, attends, ça, c'est vraiment cool. Il faudrait qu'on en prenne 2-3 quand même pour la maison.
C'est très chasseur-cueilleur, le sucre, c'est très... Oh, des framboises. Manger toutes les framboises.
Il faut que je prenne
tous les bonbons, manger tout le Nutella, etc.
Et tu te retrouves avec des stocks de papaye. Puis après, t'as peur de plus avoir de papaye. Alors, il te faut de la papaye chez toi, tu fais pousser des papayers. Je ne sais pas si
c'est ça. La papaye augmente.
Je ne sais même pas si ça pousse dans un arbre.
L'État taxe de plus en plus la papaye, tu continues d'en prendre. La papaye tue, tu la prends quand même.
Et tu deviens fou avec la papaye, etc. Après, tu as des degrés, par exemple, tu as aussi des degrés, entre guillemets, d'alcoolisme. Tu as des alcooliques qui vont boire la même chose tous les jours, tu en as qui montent. Moi, j'avais la forme, ce que j'appelle l'alcool noir, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours bu plus que tout le monde. Je me retenais de boire la semaine. Pendant des années, j'ai réussi à me retenir de boire. Je dis bien retenir, hein, parce que je me retenais de boire. Et à un moment donné, j'ai pété un câble. Et moi, en un an, je suis passé à boire le matin, à boire 6-7 litres de vin par jour. Tout le monde me dit, c'est impossible de boire 6-7 litres de vin par jour. Si, si, je vous assure. Vous savez, une bouteille de vin, c'est jamais que 3 verres. Hein. Donc, quand tu attaques le matin, il n'y a aucun problème.
Et puis, c'est des gros verres.
3 grands verres, quand même. Parce que moi, je bois, quand je bois un petit verre de vin, c'est genre... Oh, c'est bon, le vin.
C'est, ouais, c'est mais pas tu le, sais, en
tu
fait...
Vois, les verres de vin, c'est que tu hydrates au vin, là.
On se rend pas compte. C'est comme le gars qui dit... et à un moment, bah, je me retrouvais de 7h du mat à 3h du mat et je dormais que 4h à jouer au jeu en ligne, au casino, en ligne. Et tout le monde dit, mais non, c'est pas possible. Le mec dormait pas que 4h. En fait, c'est le problème de l'addiction.
En fait, tu te rends pas compte, ouais. Mais tu vois, une bouteille de vin, c'est 75 centilitres. Je crois que ce qui te servent dans un bar, c'est 12,5. Tu vois,
non, donc ça va quand même. Je suis pas en train d'en mettre.
Non, mais je sais, mais je veux dire, ça va vachement vite. Donc en fait, on
c'est une maladie exponentielle. C'est-à-dire que tu n'as pas de limite. La seule limite, c'est que t'es raide bourré.
Quand tu as la forme un peu aiguë de cette maladie, tu arrives très très vite en fait à boire des quantités incroyables. Donc tu as différents types d'alcoolisme. Tu as vraiment des gens, comme je te dis, qui vont garder la même dose tout le temps. Et puis tu as des gens qui vont vraiment partir vraiment en cacahuète très très fort. Et
est-ce que tu étais dur à ce moment-là? Quand tu dis l'alcool noir, ça veut dire que tu es dur psychologiquement avec ton entourage?
Alors non, c'est ce qu'on appelle, enfin nous on appelait ça comme ça entre nous en cure et tout, l'alcool noir, c'est ces gens qui meurent jeunes de l'alcoolisme en fait.
45 ans.
Parce qu'en fait tu arrives à très vite à boire des 6-7 litres de vin et tu fais beaucoup de coma éthylique et c'est des gens en fait qui tu n'arrives jamais à diminuer les doses. Tu ne fais que les augmenter.
Et tu meurs de l'alcool ou tu meurs de l'évanouissement, de l'étouffement, du vomi, des trucs comme ça, des choses comme ça?
C'est bien le problème de l'alcoolisme aussi, c'est que, tu vois, l'alcoolisme, une overdose, c'est une overdose. Même si, en fait, non, c'est pas totalement vrai parce que, en fait, il y a le même cas avec plein de trucs. C'est-à-dire que, en fait, l'alcool, par exemple, il y a un rideau, en fait, sur l'alcoolisme parce que ça arrange pas...
Un rideau, c'est-à-dire?
Il y a plein de mensonges, il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est, il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est que l'alcoolisme, il y a plein de gens qui, là je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas que c'est une maladie. Par exemple, il y a un truc qui est important à savoir, c'est que le manque de volonté, par contre, par exemple,
c'est important d'en parler parce que ça fait partie de la culpabilité aussi, je pense. Voilà, c'est un gros rôle, c'est un état un peu dépressif noir, donc.
Bien sûr. Et le manque de volonté fait partie du problème de l'alcoolisme. C'est-à-dire que ça fait partie, c'est-à-dire que quand ta zone de récompense se met en route, elle annihile les autres parties. Donc, quand on te dit « Ah, mais c'est qu'un problème de volonté », ben non, parce que ça fait partie de la maladie. C'est pour ça que c'est une maladie. C'est parce que à ce moment-là, cette zone-là, si tu veux, le cerveau devient fou, en fait. Et il n'y a plus que ça qui
l'outil compte. L'outil qui te permet de raisonner ne raisonne plus.
L'outil qui permet de raisonner ne raisonne plus. Donc, en fait, quand on dit à un alcoolique « Oui, mais c'est qu'une question de volonté », ben non, ce n'est pas qu'une question de volonté. Parce que le problème de volonté fait partie de ce problème-là.
D'accord, c'est comme...
C'est une question de volonté, mais tu l'as plus.
C'est ça. Ouais. Bah, un aveugle, tu dis, mais t'as qu'à regarder un aveugle, et en fait, je peux pas.
C'est exactement
j'ai
ça.
Pas le,
c'est une question d'yeux, c'est une question d'œil.
Alors après, il y a quand même une volonté, parce que mais tu vois, c'est pour ça que c'est des problèmes qui sont un peu subtils, parce que là, d'un côté, je suis en train de te dire, il n'y a pas de problème de volonté, parce que la volonté est annihilée par l'alcool. Et d'un autre côté, il y a quand même une volonté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais que t'es malade, à partir du moment où tu sais que c'est une maladie, à partir du moment où tu as pris conscience que tu as ce problème, il faut quand même la volonté de dire, il faut arrêter de boire. Et il faut se sevrer et il faut travailler.
C'est ce moment que j'aimerais juste zoomer là-dessus. C'est j'ai connu dans mon entourage plusieurs personnes qui justement avaient des problèmes psychologiques, des problèmes, des troubles mentaux, des choses comme ça. Donc c'est pas forcément lié à l'alcool ou plein de choses. Ça peut être lié à plein de choses. À quel moment tu te dis là, parce que la première fois on te dit ouais t'es chelou, t'es bizarre, machin, t'es relou, t'es j'arrive pas à te cerner. 10 fois, 15 fois, 20 fois dans ta vie, puis à un moment donné tu te dis peut-être que les gens ont raison. Ou c'est quoi le déclic qui t'amène justement à te dire là, faut que je transforme quelque chose dans ma vie profondément parce que j'ai besoin d'aide en fait. À quel moment tu te le dis ça? C'est quoi le déclic?
Je pense que le déclic devrait être le moment où tu t'aperçois que tu détruis ta vie. Je pense qu'à partir du moment où les drogues commencent à détruire ta vie, ton relationnel, toutes ces choses, je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'il faut te dire, considérer que tu as un souci. Malheureusement, quand tu es addict, c'est tellement difficile d'arrêter, tu te vois tellement pas arrêter, tu te vois tellement pas vivre sans cela, tu vois même pas l'intérêt de vivre sans ça.
Mais tu te vois bien à ce moment-là?
Non.
Tu te vois pas bien?
Non.
Tu sais que t'es pas dans la bonne vibe.
Moi, ce qui a fait que je me suis dit, il faut vraiment que j'aille en
c'est
cure.
C'est ça qui m'intéresse. Ouais.
C'est que...
Toi, je suis passé par une cure.
Ouais, je suis rentré en cure de désintox, moi. En fait, parce que je me suis retrouvé au bord d'une fenêtre. Au début, quand je me mets au bord de la fenêtre, c'est, je veux pas sauter, je veux voir ce que ça me fait.
C'est un truc qu'on a tous un peu fait, je pense qu'on se penche un peu trop aux yeux.
Oh. Ouais, bah, sauf que moi, je me mets au bord de la fenêtre, sur la corniche.
Batman.
Donc voilà, je me mets...
T'es une gargouille à ce moment-là.
Je suis très haut, je suis une gargouille. Voilà. Je suis une gargouille, je suis exactement ça. Surtout avec la gueule que je devais avoir à 4h du matin à ce moment-là. Je pense que j'avais vraiment la gueule d'une gargouille. Donc je suis au bord de la fenêtre comme ça, et je me pose comme ça. Alors là, le hasard de la vie fait que mon meilleur ami, parce que bon, c'est ce que je raconte
Michael,
sur scène.
Hein. Michael, oui, tu le racontes.
Je raconte ça sur scène. Hein. Donc, j'étais avec une
c'est très drôle comme moment, parce que la réaction qu'il a, elle est folle.
Oui, parce qu'en fait, lui, il arrive et bon, après sur scène, j'en rajoute un peu, mais bon, grosso modo, pour faire court, je peux raconter toute l'histoire, mais grosso merdo, il est 4-5 heures du matin, je suis dans un hôtel, machin, je me mets au bord de la fenêtre, je suis tout seul, et puis le hasard fait que Michael va arriver dans la chambre à ce moment-là. Je raconte un peu les détails de pourquoi sur scène, mais et donc il arrive dans la chambre et donc Mika c'est un mec hyper hyper détendu.
T'es tout seul au bord de la fenêtre.
Ah oui,
parce que moi depuis tout à l'heure je me.
Tu crois que j'avais invité des copains.
Non, je te pensais dans une fête.
Tout le monde est là. Ah non, il est en train de déconner.
Ah oui, c'est beaucoup plus bizarre si ton pote. J'arrive et t'es tout seul au bord de la fenêtre.
Ah non, mais toi t'as imaginé un truc très cinématographique où tout le monde est là, il y a les pompiers, il y a les flics,
même pas que les gens s'inquiètent, genre il est au bord de la fenêtre. Il déconne, ou alors attendez, qu'est-ce qu'il fait? Il est au bord de la fenêtre.
Ah non, non, je suis sur une corniche.
T'es tout seul, et tout seul, tu t'es dit, tiens, je vais me mettre au bord de la fenêtre.
Ouais, en fait, je suis tout seul dans ma chambre. Je suis en haut d'un hôtel, je suis au dernier étage d'un hôtel.
T'as un haut de forme, on est d'accord? Parce que je t'imaginais avec un haut de forme, c'est le mec qui est relou dans les histoires. Moi, je trouvais qu'un beau haut de forme.
J'ai un haut de forme, j'ai une petite fleur.
C'est ce que tu t'imagines là?
Ouais, le mec.
Ah bon, ouais, j'imagine.
Ah, je sais pas, tu donnes pas les détails alors.
Je rentre dans la chambre, je pète un câble. Bon, il se passe 1000 trucs que je raconte sur scène, donc je vais pas tout raconter là, mais grosso modo, je me retrouve au bord de la fenêtre. Donc je suis sur la corniche, donc j'ai ça de corniche, je suis comme ça, mais je suis haut, je sais pas à quelle hauteur, je suis en haut, donc je suis à 15-20 mètres, j'en sais rien. Je sais que je suis en haut, il y a des grands pins. Parce que je revois les pins et je peux te dire que je suis au-dessus des pins parce que je les vois de haut comme ça et je les vois bien de haut, donc je sais pas à combien je suis.
Il a
15
Courchevel
mètres,
quand même
mètres,
le gars, tu vois, il a
et donc je suis au bord de la fenêtre comme ça, et donc il y a Mika qui rentre dans la chambre et tout, il avait la clé parce que bon, bref, une histoire, il rentre et donc il me voit au bord de la fenêtre, et donc c'est vrai que, alors sur scène j'en rajoute un peu parce que je pourrais faire un peu marrer les gens, mais c'est vrai qu'il est rentré hyper détente. Alors,
son téléphone.
Et il est rentré, il s'est mis comme ça au bord de la fenêtre, et je me rappelle, il me dit ça va? Alors que je suis à 25 mètres comme ça, enfin 20 mètres de haut, je sais pas, au bord de la fenêtre comme ça. Et donc, c'est ce moment-là en fait où il y a. Enfin, c'est pas ce moment-là, c'est qu'à un moment donné, donc au début, je me mets au bord de la fenêtre vraiment pour juste me dire, tiens, qu'est-ce que ça me ferait d'imaginer de sauter? Et en fait, à un moment donné, Je pensais vraiment pas sauter en montant. Mais déjà, ce que je veux dire, c'est que maintenant, je me dis, mais qu'est-ce que je fous au bord d'une... Parce que là, je peux tomber à n'importe quel moment, c'est
là,
hyper dangereux.
Là, t'es alcoolisé.
Ah oui.
Mais est-ce que t'es alcoolisé? Est-ce que t'es ivre?
Oh, mais je sais plus. En fait, j'étais jamais vraiment ivre.
Parce que quand t'analyses a posteriori, mais est-ce que quand tu bois beaucoup, beaucoup d'alcool, t'es de moins en moins grisé par l'alcool? À quel point
tu bois de plus en plus.
C'est ça.
À ce moment-là, j'ai tellement bu que oui, de toute façon, je suis ivre. Mais après, moi, je me sentais pas ivre. Mais oui, je suis complètement ivre, évidemment. Tu vois. Yeah. Et donc, je suis là. Et en fait, il me parle, il essaie de me calmer. Jérém, mais il faut rentrer quand même là. Ce que je lui dis, dès qu'il rentre, je lui dis, t'inquiète pas, je veux pas sauter.
Ce qui est inquiétant, c'est que tu rentres,
un flingue comme ça et dit t'inquiète pas, je vais pas tirer.
Moi, je suis rentré chez ma meuf une fois. J'arrive à la maison, je dis t'inquiète pas, je t'ai pas trompé. Elle s'est dit que c'était bizarre.
Tout de suite, ça
c'est t'arrives, bonjour, je t'ai pas trompé. Pourquoi t'en parles?
et donc, je suis là au bord du truc, et puis il vient, et puis donc voilà, donc je sais plus ce que je disais. Donc bref, il te parle tout doucement, et à un moment donné, je regarde le vide, et là, tout d'un coup, en fait, c'est ce que je dis sur scène, c'est que l'idée de sauter me procure de la joie. C'est-à-dire que je passe d'un état où je suis triste, où je suis malheureux, je me mets au bord de la fenêtre en me disant, c'est ça qui est ouf, c'est que tu montes au bord de la fenêtre parce que t'es malheureux et que tu veux t'imaginer en train de sauter pour voir ce que ça te fait, et là t'es malheureux, mais tu veux pas sauter, et à un moment donné, je regarde le vide, et là, je ressens de la joie. Je me dis, putain, mais en fait, c'est tellement simple, il y a tellement pas de raison de se prendre la tête avec tout ça, il y a tellement pas de raison d'être triste, d'être malheureux, d'être machin. Et donc, je me dis, mais putain, je vais juste faire ça et c'est fini. Dans deux secondes, je vais rien sentir et c'est cool. Et donc là, je ressens de la joie. Et donc, je fais ça.
J'espère
qu'il
n'a pas sauté.
Et au moment...
J'attends de voir la fin. Et au moment où j'ai la fin de l'histoire, je suis un peu... On attend.
Comme ça, c'est pas trop. Et au moment où je fais ça, au moment où je sens que je glisse, en fait, parce que j'y vais, tu vois, et au moment où je sens que je glisse, là, je pense que c'est mon instinct de survie qui est revenu. Et donc là, je pète un câble, je m'accroche comme ça. Je dis, putain, faut que je rentre. Et en fait... Là, je range, je me mets le plus au fond possible de la chambre d'hôtel, comme si le vide allait m'attirer. Et c'est à ce moment-là que je dis à Michael, il faut m'enfermer, il faut que j'aille, il faut que je me soigne, parce que la prochaine fois, je vais sauter. En fait, c'est la première fois de ma vie où je me dis, là, je perds vraiment totalement le contrôle. C'est-à-dire que je ne veux pas mourir, et là, j'ai eu envie de mourir pendant quelques secondes. Donc là, je dis, il faut que je me soigne.
J'ai été tenté par l'expérience, en tout cas. T'as entrevu une joie. C'est mourir ou c'est l'expérience de sauter qui
Non, je voulais mourir.
Tu voulais arrêter?
Ouais, je voulais mourir.
C'était fini la peine lourde, tout ça, tu fais couper.
Et j'avais de la joie à le faire. Donc,
il y avait un sentiment de joie.
De joie. Je me suis dit, c'est cool. Dans deux secondes, je suis mort.
D'accord. Mais t'as eu des signaux d'alarme avant ce signal d'alarme?
Oui, mais je sais pas comment expliquer. Je sais que ça peut paraître dingue, mais en fait, c'est ces deux secondes-là. C'est ces deux secondes où, en fait, j'ai fait comme ça pour me jeter et. Donc, cet instinct de survie qui m'a repris.
C'est fou.
C'est ces deux secondes-là qui m'ont donné le déclic de me dire il faut absolument que je me soigne.
Scénaristiquement, c'est dans tous les films, c'est au moment où le gars va mourir qu'il prend conscience de son changement. C'est un truc très, très utilisé scénaristiquement.
Ouais, en fait, je pense que même si c'est moins visible, parce que c'est genre j'étais prêt et je me suis rattrapé par instinct de survie, il a raté son suicide.
Oui.
C'est que d'habitude, rater son suicide, tu vois, bon, il a pris des médicaments, finalement, il s'est réveillé à l'hôpital. Mais souvent, les gens qui ratent leur suicide, c'est là, c'est un départ pour.
Mais je pense que c'est très utilisé d'un point de vue scénaristique parce que c'est très vrai. En fait, quand je suis allé en
comme le racisme dans les comédies françaises, tu vois, c'est parce que c'est très vrai que parce qu'ils ont raison.
C'est vrai,
ouais. Est-ce qu'on pourrait avoir cette réaction? Est-ce que même dans les autres émissions,
on peut en faire un gif,
on pourrait avoir cette réaction des fois je dis un truc et pour aucune raison il y a Jérémy.
Non, mais c'est un gif, c'est clairement. Je veux un gif de ça, l'équipe. Merci, les amis.
Ça enlève du côté un peu sexy internet de dire je veux un gif de ça, t'es le prince du web. Là.
Je veux un gif.
Faites-en un même.
C'est vrai, ça fait un peu prince du web.
Je suis le lord.
Faites-en un gif.
Le lord des gifs, le lord.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est évident. Ça paraît très cliché, et en même temps, c'est évident. Et en même temps, c'est
mais
forcément
les clichés,
très vrai.
Les clichés sont basés sur une
évidemment,
certaine vérité.
Après la cure de désintox, j'ai fait les réunions alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, parce que comme je prenais aussi des médicaments, je pouvais aller partout. J'avais vraiment la carte, je pouvais aller chez les toxicos, je pouvais aller partout, bonjour. Ouais, je prends tout. Je cherchais pas, je prends tout. Et du coup, quand
ils font un pass global.
Non, mais en fait,
t'as un forfait, t'as un truc comme ça.
Non,
comme au ski.
Non, mais c'est bon, j'ai tous les.
Non, t'as un petit badge. Bah, après, moi, j'y vais plus maintenant, mais c'est ce qui m'a vraiment sorti de ça. Mais t'as un petit badge, tu sais, on te donne un badge tous les mois. Je sais plus, je crois que
les fameuses 12 étapes.
T'as un porte-clé, ce qui est très bizarre d'ailleurs, parce que t'as pas envie, tu vois. C'est très bizarre d'avoir sur son porte-clé un truc qui monte.
Si t'as pas 11 ans, c'est bizarre d'avoir un porte-clé déjà.
Il y a que chez les SDF anonymes, c'est pas un porte-clé, parce que ça casse le moral et tout. Mais sinon, pour les autres, c'est un porte-clé.
Mais quand tu vas aux alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, enfin cocaïnomanes anonymes, enfin il y a tous les trucs anonymes.
Alors comment ça se passe quand on est Jérémy Ferrari de la télé et qu'on va dans un truc qui s'appelle les machins anonymes?
C'est bien pour ça que au bout d'un moment j'ai arrêté d'y aller parce que au début ça va. J'avais trouvé plein de techniques, je mettais une casquette, j'arrivais à la fin. Donc en fait, j'arrivais pas à la fin de la réunion, mais je rentrais en dernier, donc je me mettais au fond, tout ça. Les gens se retournent pas forcément et tout. Et puis, donc au début, j'ai pas trop senti. Et puis les gens se focalisent pas là sur toi, donc je pense qu'il y avait quelques personnes qui m'ont reconnu, mais au bout d'un moment, en fait, on a commencé à beaucoup me reconnaître. Et puis il y a eu des périodes en fait où j'étais un peu à droite à gauche, donc j'allais à une là, dans plusieurs endroits en France. Donc ça roulait à peu près. Mais quand je suis revenu à Paris. Et que du coup, j'ai dû y aller vraiment à peu près au même tout le temps. Là, on a commencé un peu à me reconnaître. Du coup, j'ai arrêté. C'est pas que les gens m'ont cassé les couilles, c'est que du coup,
un peu du.
Ah oui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que et c'est pour ça que moi, je conseille ces réunions à n'importe qui parce que c'est déjà c'est gratuit. C'est extrêmement bienveillant. Et puis c'est un truc qui.
Ça marche.
Bah, de ce que je sais, c'est l'un des trucs, voire le seul truc qui marche. Alors après, quand je dis le seul truc qui marche, attention, il y a des gens qui s'en sortent autrement. Mais disons
bien
que.
Bien sûr, mais c'est, ça a fait ses preuves.
Il y a un taux de réussite qui est assez ouf par rapport aux autres cures.
Ça doit être dur d'entamer un process de guérison long, de se dire, il y a un process, parce que la motivation du long terme, elle est très floue quand t'es dans une situation de mal-être, de dépendance. T'as envie que ça aille mieux tout de suite, quoi. Tu vois, t'as envie de réponses claires, nettes, précises. Et là, on va te dire, non, c'est un voyage, ça va durer longtemps, tu vas aller à ces réunions,
En fait, tu peux le voir de deux manières. Soit tu te dis, c'est un long chemin, soit tu te dis, je peux gagner dans la seconde. T'es en train de boire un verre, soit tu te dis, ok, c'est mon dernier. Voilà, maintenant, toute ma vie, il faudra que je lutte contre ça. Soit tu peux te dire, c'est mon dernier verre, j'ai gagné. J'ai déjà gagné. C'est toi qui décides de comment tu vois ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent faire plusieurs cures pour que ça fonctionne.
Parce que toi, dans l'ordre, historiquement, pour reprendre le fil de ton histoire, donc après l'hôtel, là, c'est une cure de désintoxication que tu fais.
Ouais.
C'est pas tout de suite les alcooliques anonymes et les réunions.
Oui, mais la cure de désintox que je fais en Suisse, elle est basée sur le programme des alcooliques anonymes.
Okay.
Donc je suis avec des médecins, il y a des spécialistes de tout. C'est comme ça aussi c'est grâce à ça que je vais avoir mon bilan psychiatrique parce qu'il y a des spécialistes dans tous les domaines dans cette cure. C'est une cure de ouf. Elle est géniale. T'es 10-15 dans un espèce de chalet. Et t'as des psychiatres, des psychothérapeutes, t'as de tout. Tous les spécialistes sont un peu là. Et t'as des entretiens individuels, t'as des trucs de groupe. Et puis t'as des suivis sur tous les pans. Ils te font faire plein de tests pour essayer de comprendre comment tu fonctionnes et tout. Parce qu'ils veulent voir justement quelle est la part de entre guillemets, maladif. Est-ce que t'as des troubles psychiatriques? Est-ce que t'as des troubles psychologiques? Est-ce que t'as des failles à régler? Enfin, ils te font vraiment un espèce de truc qui te... Mais c'est très, très dur. Hein. Il te lamine la tête. Hein. Il te casse tout. Parce qu'en fait, quand tu...
T'as souffert ?
Ouais, beaucoup. J'ai beaucoup...
C'est ton ego qui a été...
Ouais, tout. Il te casse tout, en fait. Pendant 10-15 jours, tu sais...
Merde, va dans la douche. Tch, il t'arrose.
Oh, mais ça n'a rien à voir. Pourquoi vous faites comme si le sang Stallone dans la prison ? Non, mais disons qu'il te casse tous tes... Il te casse tout, tous tes égos, tous tes trucs.
Tous tes verrous, en fait, que tu as mis en place pour t'assurer que tout va bien.
Tout ce que tu racontes. Et puis, ils le font devant les groupes, tu vois. Je vais te donner un exemple. Je pense qu'il est assez... Il est cool, celui-là. Il résume bien le truc. On est 15, donc on est un truc de groupe comme ça, machin. Et tout le monde doit raconter le moment où il a eu le plus honte, un truc qu'il a fait sous drogue. Et il doit raconter aux autres, voilà, à cause de la drogue, j'ai fait ça, le truc dont j'ai le plus honte.
C'est un super podcast.
Ouais.
Ils enregistrent d'ailleurs.
Et donc, on fait
un extrait.
Chacun raconte son machin et tout. Donc, on arrive à moi, je raconte un truc et tout. Un truc vraiment dont j'ai honte et tout ça. Et puis, la nana, elle s'arrête, elle me dit, non, c'est pas ça dont t'as le plus honte, je te crois pas. Je sens que c'est pas ça. Et en fait, ils sont très forts parce que les thérapeutes sont pas toujours les mêmes et t'as des thérapeutes qui sont eux-mêmes d'anciens alcooliques.
Ils se rendent compte que la meuf, c'est une ex, en fait. Elle savait très bien ce qu'ils voulaient. Elle dit, non, c'est pas ça, Jérémy, que tu veux raconter. T'as fait autre chose à une médecin géniale un soir. Tu m'as dragué, salaud. Tu m'as acheté le lendemain.
Et donc, elle s'est dit, non, c'est pas ça. T'as forcément un autre truc et tout, machin. Je sens que c'est pas ça.
C'est marrant, c'est-à-dire qu'elle sent que t'es déjà
dans un verrou.
Ouais, elle le sent et elle a raison.
Je raconte un truc qui passe, quoi.
Ouais, les thérapeutes sont très forts. Parce que surtout les thérapeutes qui ont été eux-mêmes d'anciens addicts, ils sont très bons parce qu'ils captent les trucs et puis ils font ça toute la journée. Tu vois, c'est leur taf, ils font que ça. Et elle, en l'occurrence, elle est très très connue dans cette cure. Quand tu arrives, on me dit, ah, tu vois, elle est ouf. Il y a des mecs en Russie qui viennent la chercher en jet pour aller aider des gars en Russie.
Il y a des alcooliques en Russie.
Et apparemment.
C'est nouveau, ça.
J'ai jamais entendu parler de ça, mais apparemment.
Moi, je les vois toujours quand en soirée. Quand ils disent, ah, bah, c'est des bons vivants, ils sont sympas.
Ce sont des épicuriens. Et donc, elle était vraiment ouf. Et donc, elle me dit, ça, je te crois pas, et tout ça, machin. J'ai dit, ouais, bon, effectivement, peut-être il y a un autre truc. Bah, vas-y, il faut pas avoir honte. Donc, t'as tout le monde qui travaille. Alors, tu racontes ton deuxième truc et tout. Et puis, quelques jours après, le lendemain ou le surlendemain, peu importe, elle me croise et tout. Elle me dit, bon, viens dans mon bureau et tout. Dans son bureau. Et elle me dit, allez, maintenant, raconte-moi le vrai truc. Donc, t'as honte. On est tous les deux, raconte-moi le vrai truc. Je raconte le vrai truc.
Frère, il y avait trois couches.
Et effectivement, elle a raison, il y a un truc que je n'avais pas dit. Je raconte le vrai truc. Je dis, ok, ça te fait du bien et tout. Je dis, ouais, c'est cool et tout. Deux jours après, groupe. Au fait, Jérémy vous a menti il y a 5 jours. Ah, il va vous raconter le vrai truc. Et tu vois, ils te font que des trucs comme ça. Alors, ça peut paraître très dur, mais en fait... Et tu vois, par exemple, ils vont t'engueuler, j'en sais rien. Tu vas être là à dire, ouais, ma mère, machin. Donc, c'est à cause de ta mère. Ah non, j'ai pas dit que c'était à cause de ta mère. Mais si, t'es en train de dire que c'est à cause de ta mère. Donc tous les gens qui ont une mère comme ça, c'est, ils boivent. Donc non, j'ai pas dit ça. Bah si, t'es en train de dire ça. Donc c'est à cause de qui? C'est à cause de ta mère? Non, j'ai pas dit que c'était à cause de ma mère. Si, t'es en train de dire que c'est à cause de ta mère. Ça fait une semaine que t'es là, ça fait une semaine que tu nous parles de ta mère. Donc c'est à cause de ta mère, tu vois? Ils font des trucs comme ça. Donc c'est à cause de qui? Qui ouvre la bouteille? C'est toi ou c'est ta mère?
C'est Jean-Jacques Bourdin qui fait les.
Dites-le, les Français veulent savoir. À combien elle est la baguette?
Et donc voilà, tu vois, c'est plein de trucs qui te cassent. Mais ils le font exprès, en fait. Ils passent de. Il te casse tous tes mensonges, tous tes trucs. Tu vois, des fois, tu racontes une histoire hyper émouvante pendant 10 minutes. Elle te fait.
Bah, les couilles.
Bah, les couilles.
Mais oui. Dans la douche.
Haché. Arrêtez avec cette eau froide. C'est vraiment insupportable. Mais non, mais elle va te dire, moi, ils arrêtaient pas de faire ça. OK, bon, c'est super, Jérémy. T'as un talent oratoire. C'est génial. Tu nous as raconté
super,
une belle histoire.
T'as romantisé l'alcoolisme.
Voilà. Exactement. Et ils te défoncent. Ils te disent, voilà. Mais moi, par exemple, tu vois, bah, Pierre, il a moins de vocabulaire que toi, mais il était plus sincère. Donc maintenant, est-ce que tu peux arrêter de nous faire un show beau et à écouter et nous raconter la vérité?
Et arrête de sauter, ça fait 10 minutes.
Est-ce qu'on peut parler de la dernière étape des groupes de discussion, justement, des alcooliques anonymes? La dernière étape, c'est, si je me trompe peut-être...
Ouais, ça fait longtemps, mais dis-moi, je vais m'en souvenir.
Il faut aider une autre personne qui est alcoolique. Est-ce que toi, tu as fait ça? Est-ce que tu as eu ce truc-là?
Alors, il y a effectivement deux choses. Je pense que, parce qu'on se demande pourquoi ça aide autant les groupes, parce que moi, j'étais contre aller parler en groupe et tout ça, machin. Je parle, tu sais, il y a plein de gens qui m'écrivent pour me dire comment je m'en sors, et moi, je leur dis, allez aux alcooliques anonymes. Et à chaque fois, les gens me disent, ah non, bah non, moi, ça, je peux pas. Bon, bah écoute, de toute façon, c'est tellement dur d'arrêter de se droguer. Si t'as pas encore la volonté, ne serait-ce que d'aller un dimanche après-midi ou un samedi, juste poser dans une salle où personne va rien te demander, juste écouter, si t'es pas capable de faire cette démarche, c'est déjà quand même mal barré. Il faut quand même déjà admettre qu'on a un souci. Ça, c'est la première étape. Comme on va parler de la dernière, autant parler de la première. C'est admettre que j'ai un souci et que je peux pas m'en sortir.
Mais
tout
alors,
seul.
Admettre que t'as un souci, ok, mais ça veut dire qu'il y a une forme de déni pendant très longtemps.
Ouais, mais.
Mais il y a plein de gens qui admettent et c'est une première étape, mais elle est.
Moi, j'ai admis que j'étais alcoolique.
Tu peux l'avoir plusieurs fois, cette admission de dire c'est bon, j'ai un problème, et en fait, tu peux l'avoir pendant 4-5 ans,
à un moment donné, j'ai dit bon, là, je suis alcoolique. Clairement, je suis alcoolique, mais je suis pas prêt à arrêter tout de suite. J'ai arrêté un an après.
D'accord.
Tu vois, et il a fallu que je. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je rebondis sur ce truc-là, on dit que c'est un peu très cinématographique, c'est parce qu'il a fallu ce moment-là, moi, où je sentais que si je continuais à boire, j'allais finir par me jeter par la fenêtre alors que je voulais pas mourir. Il m'a fallu ce déclic pour dire maintenant, il faut que je me soigne.
C'est ton parcours. C'est ton parcours, c'est ta manière d'avoir vécu l'alcoolisme.
Ouais.
Et de vivre l'alcoolisme encore aujourd'hui. T'es pas l'exemple de. Tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui sont en quête de solutions. Ça, c'est ton parcours. Il y a autant d'alcoolisme que d'alcooliques.
Évidemment. Il y a des gens qui se réveillent tôt. Il y a des gens qui se réveillent tard. Il y a des gens qui ont besoin d'être au fond du fond du fond du fond pour arriver à s'en sortir. C'est malheureusement souvent le cas. La plupart des gens attendent d'être au fond du fond du fond. Le problème, c'est que selon le fond que tu as atteint, bah, tu as cassé plus ou moins de choses. Et y a des trucs qui sont plus ou moins récupérables. Donc, c'est ça le problème. En tout cas, c'est ce que j'ai pu observer autour de moi quand j'étais en cure des intox. Et donc, ce qui aide, c'est que, quelles que soient tes angoisses, toutes tes angoisses résonnent par rapport au contact que tu as avec l'autre. C'est-à-dire, donc moi, je suis obsessionnel compulsif, obsessionnel idéatif, par exemple, ça me crée des flashs dans la tête, des images horribles, des machins, des trucs. Hein. Bon, je ne peux pas avoir d'image s'il n'y a pas d'autres êtres humains sur cette planète. Tu comprends? C'est que quel que soit ton souci, c'est toujours par rapport aux autres. Donc, l'autre est un ennemi, quelles que soient tes angoisses. Que tu aies un schéma psychiatrique relativement classique ou des schémas psychiatriques un peu plus difficiles comme moi, de toute façon, c'est l'interaction sociale, ce sont les autres. L'enfer, c'est les autres. C'est toujours les autres qui font que tu te sens pas bien. Si tu te sens moche, c'est par rapport à quelqu'un. Si tu te sens beau, c'est par rapport à quelqu'un aussi. Enfin, tu vois. Donc,
il t'a un peu montré quand il a dit moche, il m'a un peu montré quand il a dit beau.
Je vis pas mal. Je me sens pas forcément beau ou moche. Je me sens vivant.
Mais par rapport à moi, t'es moche, c'est ça qu'il veut dire. C'est toujours par rapport à quelqu'un.
En tout cas, c'est comme ça qu'effectivement ça s'est passé de manière un peu instinctive. Donc, c'est toujours par rapport aux autres. Et le fait de te retrouver en face de quelqu'un que tu ne connais pas, qui ne te connaît pas et qui va t'écouter avec énormément d'empathie, sans jugement, ça t'enlève un poids qui est inexplicable. Et c'est ça qui fait que ces réunions te font du bien. Quand tu ressors d'une réunion, tu es léger et tu n'as plus peur du monde extérieur. Je ne sais pas expliquer comment, je ne sais pas te
dire
pourquoi.
Ce poids, ça se ressent comment, ce poids physiquement?
C'est vraiment
c'est
ça.
C'est là. Quand tu montes ta poitrine, tu as un poids dans la poitrine.
Ouais, ouais. J'ai toujours une espèce de boule d'angoisse tout le temps, comme ça, dans la poitrine. Mais elle part une fois que tu as parlé avec 35 inconnus. Et je ne sais pas te dire pourquoi.
Parler on revient à vraiment à un mécanisme de la psychologie, c'est parler, c'est...
C'est primordial. C'est, il n'y a que ça. Il faut pas avoir honte de son addiction. Et le fait d'aller dans des groupes, tout d'un coup, en plus, c'est génial, les groupes, parce que t'as des clichés, mais c'est drôle, tu vois. Moi, il y a des scènes où t'as un espèce de balèze comme ça, avec une araignée tatouée comme ça, et à côté, il y a une prof d'histoire de 47 ans, propre sur elle, et l'autre, il boit de l'alcool, et l'autre, elle prend de la coke avant ses cours d'histoire. Enfin, c'est surréaliste, les trucs que tu vis. Et t'as la petite prof qui te raconte des trucs de junkie de ouf.
Je suis ravi que Madame Merisier soit allée en... Elle n'existe pas, cette femme. En tout cas, s'imagine.
Mais tu vois,
je reconnais totalement ma prof de jeu. Hein.
Mais c'est
alors,
ça qui est ouf.
L'invasion de la Pologne par Hitler.
Waouh.
C'était, elle a une pêche, elle,
quelle
le samedi matin,
c'est fou. Hein. Et donc, ça aide, le fait de machin. Et j'arrive à la 12e étape, vas-y. À la dernière. Et donc, tout ça, donc, c'est ça qui fait que ça aide. Et effectivement, quand tu te sens, quand tu commences à avoir pas mal de clean, d'années clean, moi, ça fait plus de 5 ans que je suis clean.
Bon, est-ce qu'on peut l'applaudir?
Tu peux avoir, t'as quand même, en 5 ans, t'as vécu quand même pas mal de trucs très relous et t'as pas replongé. Donc, tu commences et t'as eu envie de replonger à plein de moments. Donc, tu commences à avoir un peu d'expérience. Et si tu te sens une âme un peu pédagogue et si t'as envie de partager, effectivement, à ce moment-là, il faut essayer d'aider un peu les gens. Alors, tu peux les aider plus ou moins. Tu vois, moi, j'ai eu l'occasion.
Mais de toute façon, le fait que tu sois une personnalité publique maintenant, c'est tu aides forcément les gens.
Alors, c'est ce que j'essaie aussi de faire dans ce spectacle.
Mais même là, t'es en train d'aider des gens sans t'en rendre compte.
J'espère que ça va aider des gens. Et après, dans le quotidien, t'as forcément l'addiction, ça touche tellement de gens. Et puis, maintenant, j'essaie aussi de les aider par rapport à mes maladies invisibles. Pour te comprendre, il faut étudier. Donc moi, j'ai essayé d'étudier ce que c'était que le trouble de l'attention avec hyperactivité.
Le souci de maîtrise aussi. Étudier, c'est comprendre, et comprendre, c'est maîtriser.
Bien sûr. Donc voilà, c'est ça. Donc j'ai essayé d'étudier mon profil psychiatrique en disant, OK, j'ai ça. OK, qu'est-ce que ça veut dire, machin. Donc en fait, tu commences à avoir un petit peu aussi d'expérience dans la psychiatrie. Tu commences à capter un peu les trucs en te comprenant. Et du coup, ça aide aussi pour aider.
T'es très sincère sur scène là.
Pour aider sur le reste. Oui, parce que je trouve que
tu donnes la cartographie de ton esprit. Tu dis, voilà les problèmes que j'ai, voilà, ouais, le logiciel, il est baisé.
Ah oui, il est niqué.
Il est baisé pour X raisons, c'est pas les raisons que je cherche. Maintenant, j'ai la méthode pour gérer le logiciel. Bon, voilà, faisons avec, quoi. C'est un peu ton discours.
De toute façon, moi, quand ils ont fini de me faire le bilan, à la fin, ils m'ont dit, il n'y a pas de traitement. Et de toute façon, même s'il y en avait un, il serait addictif.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et comme t'es addict, on va pas te le donner, parce que sinon...
D'hydroxychloroquine, ils ont dit. Il y avait de la chloroquine.
Il y avait de la chloroquine dedans.
Parce que quand t'étais à Marseille, ils t'ont dit, la chloroquine, c'est ça.
Exactement.
On n'était pas sûr.
Je me suis foulé la cheville à Marseille.
Du coup, moi, j'ai deux questions.
J'ai deux questions.
Ça fait un lapin. Une question pour, limite, qui bouclerait un peu le délire. Et une autre question qui nous remettrait peut-être dans les blagues. La première...
Mais on a bien rigolé quand même, on a eu des conneries.
On a eu des blagues.
On s'est bien tapé des barres. C'est sa force,
ouais.
C'est qu'il peut parler de trucs sérieux. Mais
j'ai pas fait une blague, c'est vous qui avez fait les blagues.
Ouais, bah oui, mais t'as bien réagi. On a eu un gif.
Je suis le lord des gifs, faites des gifs, faites le gif de ça, je veux un gif.
La première, c'est que je pense aux gens qui commencent à se dire, tiens, mais attends, ce qu'il raconte, Jérémy, ça ressemble un peu à moi, mais je suis pas prêt. Et moi, l'impression que j'ai, pour avoir certaines addictions, par exemple la cigarette, comme ça, ou la viande même, parce que j'aimerais bien être végétarien, mais j'arrive pas. C'est qu'en fait, t'as du mal à te dire, mais qu'est-ce qui va être mieux après ? T'as tellement l'impression que c'est très bien comme ça, que c'est dur de comprendre ce qui est mieux après. Et toi, qui du coup, là maintenant, ça fait 5 ans, 6 ans, qui a connu l'avant et qui connaît le maintenant, qu'est-ce que tu dirais qui est réellement mieux ? Parce que quand quelqu'un te le raconte et qu'il ne l'a pas vécu, tu dis oui, d'accord, oui, c'est mieux de manger du quinoa et de boire de l'eau.
Quand tu es tombé, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Parce qu'en réalité, quand tu es vraiment tombé dans l'addiction dure, tu sais que c'est pas bien.
Non, mais ne pas bien par rapport à quoi ? T'es juste un mammifère sur une planète.
Pas bien, mais tu te racontes que c'est pas si grave et qu'on se fout.
T'es extrêmement mal.
Ah, t'es mal.
T'es très, 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 très malheureux.
Tu dis que c'est dépressif. Tu dis que c'est anxiolytique, mais c'est dépressif.
Ah oui, t'es dans un état.
C'est-à-dire
que, par exemple, pour mon cas, l'alcool ne me faisait plus rien. C'est-à-dire que j'étais de. Pourquoi tu te mets à boire le matin ? Parce que tu te lèves, t'es tellement angoissé que tu ne peux pas fonctionner. C'est-à-dire que tu ne peux pas fonctionner.
Comment ça se passe, l'angoisse ?
Ben, t'es pris d'un truc dans ta poitrine qui fait que tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux pas rester assis, tu ne peux pas réfléchir à quelque chose, tu ne peux pas parler à quelqu'un parce que c'est du temps que tu ne peux pas utiliser à réfléchir à
ton angoisse.
Tu dors pas bien, t'es dans un état... C'est une catastrophe d'angoisse, donc tu ne peux rien faire.
Et encore, c'est un circuit chimique dans ta tête qui te fait croire. Parce qu'en fait, au final, autour de toi, tout va bien. C'est juste que c'est l'interprétation de la réalité
bien
qui est
sûr.
Catastrophique.
Tu es dans un schéma qui fait que tout ce que tu vois autour de toi t'angoisse.
Et crédible. Et c'est crédiblement angoissant.
Tout est totalement crédible.
D'accord.
Tout est.
Ce qui est la différence, c'est la différence de la perception. C'est ça qui est intéressant. Parce que l'angoisse, on dit, t'es angoissé. Mais qu'est-ce que c'est ? À l'intérieur de toi, tout s'effondre. Et au final, t'es dans ton salon et il se passe rien.
Non, il se passe rien. Alors après, bon, moi, c'est lié aussi au fait que j'ai un trouble d'attention avec hyperactivité, que je suis obsessionnel, compulsif et idéatif.
Tu vas deux fois plus vite. D'accord.
Par exemple, l'obsession, on en parle très peu. Alors, c'est un mot très galvaudé. Je suis obsessionnel. C'est oui, moi aussi, je suis un peu obsessionnel. Je vais vérifier 3-4 fois que ma porte est fermée. Oui, bon, ça, c'est une obsession. L'obsession vraiment maladive.
40 fois.
Parce qu'en fait, il faut bien comprendre aussi ça, c'est que, en fait, on a tous des troubles. Tu vois, si je te parle sans rentrer dans les détails de mes problèmes, tout le monde va dire, bah oui, j'ai un peu ça aussi. Et certainement que les gens ont un peu ça aussi.
C'est comme quelqu'un de très dépressif qui raconte sa dépression vite fait, et l'autre dit, oui, moi aussi, j'ai déjà été triste.
Oui, et ils ont raison. Ce que je veux dire, c'est que faut pas. En fait, ce qui fait basculer un truc de la vie normale à une maladie, c'est l'intensité, la fréquence et l'épaisseur du problème et les impacts que ça a sur ta vie. En fait, ce que je veux dire, c'est que de l'obsession, tout le monde en a déjà eu. Mais quand le truc t'obsède pendant 20 ans, tous les jours, matin, midi et soir, et que ça te met systématiquement des coups de poignard à chaque fois avec la même intensité pendant 10 ans, bon, bah, c'est pas... Du coup, tu comprends, c'est ça qui fait que tout d'un coup, ça devient une maladie. Et par exemple, l'obsession, si j'obsède sur quelque chose... Même le degré d'importance est niqué dans ta tête. C'est-à-dire, et ça fait partie de la maladie. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui te permet dans ta tête de savoir que faire tomber une tasse de thé, c'est pas la même chose que de faire tomber un bébé. A priori, t'as pas la même réaction.
Ouais.
Toi qui as fait
tasse
tomber
de thé,
beaucoup
c'est
bébés,
relou. Tu sais des bébés, il y en a plein.
Un bébé, il y en a plein. Une tasse de thé, c'est super relou. Bon. Donc, il y a un truc dans ta tête qui te permet de savoir, bon, ben, ça, c'est plus grave qu'autre chose. Et ben, quand tu fais une espèce de crise obsessionnelle, ton cerveau te dit que le truc le plus important dans ta vie, c'est ce truc-là. Et c'est un truc, souvent, que tu as inventé. Donc, donc, tu peux venir à ce moment-là me dire ton père vient d'avoir un accident, je ne sais pas quoi, ou ta mère, ou je ne sais pas quoi. Eh bien, je te jure que je vais mettre peut-être 10 minutes. Il y a de fortes chances que je te dise, si je suis en crise, je vais te dire attends.
Parce que j'ai fait tomber une tasse de thé, là.
Parce que j'ai fait tomber une tasse de thé.
Je dois gérer ça.
Alors, c'est un peu caricatural, mais on est quand même pas très loin de la vérité.
Oui, je connais des personnes obsessionnelles. C'est même très proche de la vérité. Parce que tu dis, mais c'est vraiment. En fait, quand tu es en face de la personne, ça m'arrive. En fait, c'est dur de réaliser à quel point c'est grave pour l'autre. Parce que tu dis, mais c'est vraiment pas grave, tu as fait tomber une tasse, quoi.
Et il faut imaginer, en fait, un mécanisme dans la tête qui est grippé. C'est-à-dire, le mécanisme ne fonctionne pas. Donc, toi, tu as un être humain en face de toi, tu te dis, ben non, mais je vais juste le raisonner, lui expliquer. Mais non, ça ne marche pas. Il n'y a rien de cohérent. Ce n'est pas rationnel. C'est ton cerveau qui part en couille. Donc, ton cerveau, il t'envoie, c'est ça, tasse de thé, putain, c'est terrible, cette tasse de thé, putain, t'as taché le tapis, putain, la tasse de thé, ça va couper des gens, putain, t'es un monstre, tu vas tuer, tu vas couper des gens, tu vois.
Là, tu parles de la tasse de thé,
tu l'as coupé au moment où il disait, tu vas couper des gens. Donc, je trouve que c'est un peu.
C'est un peu de la provoque.
Ça se fait pas.
C'est vrai. Mais la tasse de thé, c'est un peu anodin et c'est très, très anodin, mais il y a aussi le...
Alors évidemment, moi je n'obsède pas sur les trucs aussi bateaux.
Un commentaire sur Internet, un truc négatif.
Ouais, alors moi, c'est... Alors après,
on quelqu'un qui rigole pas dans la salle, devant toi, tu vois, t'as ça sur scène aussi, tu vois, le côté genre ça...
Non,
moi,
en général...
Moi, je connais des humoristes, il y a un mec qui se marre pas devant 1000... Il passe la pire soirée de sa vie, il sort, il est en larmes, et il dit « j'ai pas rigolé ».
Ouais, mais c'est assez... C'est
t'es un peu en train de faire ce qu'il disait juste avant. T'essaies de le ramener dans une normalité, un truc où tu dis « c'est normal, parfois un artiste, il aime pas ».
Non,
c'est
d'accord,
pas
pour pardon.
Moi, critiquer. Par exemple, je veux obséder sur...
C'est-à-dire que l'obsession, justement, si l'idée de prendre la tasse de thé, c'est de dire « mec, c'est à ce point-là ».
Généralement, les
en plus, tu connais ce que t'en fais parfois des...
Oui, oui.
tu vois bien que c'est beaucoup moins grave.
Oui, oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est jamais grave. Au final, tu l'oublies après trois jours. Enfin,
t'as un problème, il n'y a plus de café. Ça te semble aussi grave que...
Ouais, c'est vrai.
L'intensité peut être aussi grave qu'un truc quand t'étais plus calme et où...
En fait, généralement...
C'est quelque chose de vraiment grave, tu vois.
Vrai. Généralement, les obsessionnels idéatifs, ils ont des symboliques, en fait. Donc, ils vont obséder sur des trucs bien précis. Alors, on a essayé de ranger ça en plusieurs catégories. Donc, il y en a un, ça va être... Il y a une catégorie, on va dire, c'est la pureté. L'autre, ça va être ça. L'autre, ça va être ça. Donc, il y a 5-6 gros thèmes, en fait, chez les obsessionnels idéatifs qui, après, se traduisent de manière un peu plus précise en fonction de ce que t'as vécu dans ta vie, de tes sensibilités, de tes drames, de tes failles, etc., etc. Donc, généralement, ça se traduit. Ça, c'est... moi, je vais pas expliquer vraiment sur quoi j'obsède, mais il y a un thème bien spécifique qui m'obsède. Mais par exemple, si ce thème-là n'a pas lieu d'être dans ma vie à ce moment-là, je vais obséder par exemple sur, j'en sais rien, je vais me dire j'ai le sida. Et donc, je vais me lever un matin, je vais me dire j'ai le sida. Alors, j'ai le sida, j'ai ça. Donc, on a tous eu par exemple, mais je prends cet exemple
un peu exprès parce qu'en tant qu'obsessionnel,
on a tous eu le sida. Donc, après, par exemple, je vais me lever, je vais dire j'ai le sida. Je vais aller faire 47 tests d'affilée. Il n'y a aucune raison à penser que j'ai le sida. Je vais penser que j'ai le sida. Et après, la deuxième phase, là, quand ça se met vraiment à partir en cacahuète, par exemple, je vais être un repas de famille. Et là, en fait, j'ai envie de pleurer. Et j'ai envie de pleurer, de prendre tout le monde dans mes bras parce que je me dis c'est la dernière fois qu'il me voit. Et après j'ai des images de moi en train de mourir sur un lit d'hôpital avec ma mère. Et ça c'est là l'exemple que je prends, c'est un exemple.
C'est un matin classique.
C'est un matin classique. Ça c'est des trucs soft. C'est des trucs soft quotidiens qui maintenant par exemple tous ces trucs là ne m'atteignent plus. Tu vois, ça c'est des trucs que j'ai tout le temps dans
la tête.
T'as
un recul maintenant sur
ça? Là, ce matin, je suis parti en me disant, j'ai un truc, là, je vais pas vous expliquer ce que c'est, mais là, je suis parti ce matin en scout et je sais que je suis en obsession sur un truc. Mais c'est du quotidien, c'est rien du tout. Quand je fais des grosses crises, c'est pas ça. Quand je fais des grosses crises, je suis dans le noir, je peux même pas écouter de musique parce que la musique me crée un lien obsessionnel dans ma tête. Le frottement des, je peux pas être dans un lit parce que le frottement des draps, le bruit des draps me provoque des images dans la tête, etc. Donc, il faudrait presque que je vole en l'air. Sans bruit, sans son, il faudrait même pas que j'entende le bruit du vent parce que le bruit du vent va me donner une image ou une obsession, tu vois. Et donc quand tu commences à boire le matin, alors tous les alcooliques sont pas obsessionnels, mais quand tu commences à boire le matin, c'était pour expliquer un truc complètement irrationnel qui te prend. Et donc tu bois le matin parce que c'est ton seul moyen d'aller travailler. Tu ne peux pas y aller, c'est impossible. Donc tu bois. Ça fait redescendre la pression et tu dis ok, maintenant je peux y aller. Donc quand tu rentres vraiment dans un cycle d'addiction forte, tu ne te drogues plus pour être drogué, pour être shooté. Tu te drogues pour fonctionner.
Justement, ma question n'était pas claire, mais ce que je veux dire, c'est que donc, là, quelqu'un qui nous regarde et qui dit « tiens, ça ressemble », j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est qu'il est dans l'état dont tu parles, imaginons qu'il est aussi obsessionnel, mais en tout cas dans un très mauvais état, il se réveille le matin dans un très mauvais état. Et l'idée, c'est de te dire « si là, aujourd'hui, je ne bois pas, si j'arrête de boire, je serai dans cet état tout le temps. » Tu vois mon raisonnement?
Ouais.
Et j'ai l'impression que c'est intéressant d'entendre. Voilà dans quel état tu seras si tu arrives à dépasser l'état où tu bois pour arrêter d'être pas bien. Tu vois.
En fait,
qu'est-ce qui est mieux? Parce que là, quand tu le décris, moi, je pourrais me dire, je me mets à la place de quelqu'un qui est en plein dedans. Je me dis, mais c'est horrible. Il est en train de dire que maintenant, il a les mêmes obsessions, mais en plus, il boit pas.
Bien sûr.
Mais du coup, qu'est-ce qu'il y a de mieux?
Je comprends ta question, mais c'est très difficile pour moi d'y répondre parce que tu me parles de deux mondes, en fait.
Ouais.
Y a un monde qui est l'enfer et l'autre, c'est juste la Terre. Donc, est-ce que la Terre, elle est parfaite? Non, elle n'est pas parfaite.
Ah, c'est pas ma question. Justement, je t'ai encore recoupé.
Non,
mais
il n'y a pas de souci.
Justement, je suis pas en train de... Je suis en train de te dire que quelqu'un qui n'est pas du tout dans le problème, qui parle à quelqu'un qui est dans le problème, justement, il va se dire, putain, faut que je lui fasse croire que la vie est formidable de l'autre côté. Justement, je pense que toi, tu sais que bon, bah, t'es quand même sur Terre, il y a quand même des problèmes, t'es même plus lucide, comme tu disais tout à l'heure. Donc, tu dois plus affronter le monde que quand t'étais alcoolisé. Mais du coup,
j'ai compris.
Si là, je te dis là, je rappuie et t'y retournes, tu veux pas y retourner.
Non.
Donc, il y a une
raison. Parce que tu sais, quand tu rentres en cure de désintoxication, ils te disent quelque chose. L'addiction te mène à trois endroits. À la morgue, en prison ou à l'hôpital. Les trois seules issues possibles de l'addiction, ce sont ces trois portes. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai du mal à répondre à ta question, parce que c'est pas comparable. C'est juste, est-ce que tu veux vivre ou est-ce que tu veux mourir? Est-ce que tu veux avoir une vie où tu vas avoir des difficultés, mais que tu vas pouvoir les résoudre? Ou est-ce que tu veux détruire ta vie?
Est-ce qu'on peut dire que c'est moins là où t'es que là où tu ne vas plus? C'est-à-dire que quand tu compares les deux, la question, c'était pas où est-ce que je suis au moment où j'y suis, c'est où est-ce que j'allais.
C'est ça.
C'était pas le chemin sur lequel j'étais engagé.
C'est-à-dire que l'addiction, En fait, on se l'addiction détruit la vie des gens. Soit ça détruit ta carrière professionnelle, je ne parle pas d'une carrière artistique, parce que évidemment tout le monde est touché par des problèmes d'addiction. Soit ça détruit tes proches, soit ça détruit ta santé, mais généralement ça détruit les trois. Donc en fait, c'est pas est-ce que la vie est mieux sans ou est-ce que la vie est mieux avec. C'est que avec, il y a pas de vie. C'est du chaos. Quand tu bois 6 litres de vin par jour, t'es pas en vie. Il y a rien. Ton rapport avec les gens, il est nul. Nul au sens, il est à zéro, il n'existe pas. Ton rapport avec la santé est à zéro aussi. Ta capacité à réaliser des projets est à zéro aussi. Donc, après, en fonction de ce que tu bois, en fonction de ton degré, en fonction de là où tu es dans ta vie, ben, il y a des gens, par exemple, ils vont se droguer, ils vont arriver à tenir leur carrière, mais à côté, leur vie personnelle va être chaotique, ou la santé va être chaotique. Il y a des gens, ils détruisent tout, mais dans tous les cas, tu n'es pas dans une lucidité. Et ce qui est sûr, c'est que tu es extrêmement malheureux. Parce que les drogues, elles te soulagent au début. C'est vrai, faut dire la vérité. Moi, c'est pour ça aussi que je suis tombé dans l'alcool. Les premiers verres, c'est formidable. C'est un vrai médicament. Et je vais même te dire autre chose. Je ne regrette pas d'avoir bu. Je ne regrette pas parce que avant de savoir tout ce que j'avais dans la tête, avant de comprendre qui j'étais, j'avais rien d'autre. Et j'avais tellement de problèmes dans la tête que tant qu'on ne m'avait pas donné les clés et les armes pour m'en sortir, je n'aurais pas pu fonctionner dans ma vie sans ça. Donc moi, je ne regrette pas d'avoir bu. Je ne regrette pas d'avoir bu. Je ne regrette rien de ma vie. Je me dis, voilà, j'ai fait des conneries, j'ai dit des trucs que je regrettais, j'ai fait des choses que je regrettais, que je regrette. C'est très bizarre, cet emploi de conjugaison. Mais tant pis. Tu vois, j'aurais préféré que ça se passe autrement, mais ça s'est passé comme ça. Mais je ne m'en veux pas. Je me dis, tant pis. À ce moment-là, je n'avais pas d'autre clé. Moi, j'ai grandi dans un endroit où, quand tu parles de psychiatre, c'est parce que tu es ouf. Tu vois, moi j'ai grandi dans une ville.
Très le, 80, 90.
Ouais, mais c'est ça, tu vois. Je vais aller chez le psy. Pour moi, c'était. Dans mon entourage et tout, aller voir un psychiatre, c'était considéré comme fou. C'était très péjoratif. Tu vois, on ne pensait pas du tout à t'envoyer chez un psychiatre.
Ça t'aurait aidé d'aller voir un psy, même quand tu allais un peu mieux à l'adolescence?
C'est compliqué parce que je suis allé voir des psychiatres, des psychanalystes et tout. Mais le problème des maladies invisibles, comme l'obsession, etc., c'est qu'elles sont extrêmement mal connues, extrêmement mal comprises, etc. Donc moi, j'ai quand même connu j'ai eu beaucoup de psychiatres qui me croyaient pas ou qui me disaient oui, c'est l'adolescence.
Moi, depuis tout à l'heure, je ne crois pas. Personnellement, tout ce que tu racontes, c'est de la merde.
En même temps, je suis pas.
Ah, c'est pas un sketch. Moi, je crois que c'est un perso.
Moi, tu racontes ton spectacle.
Donc t'as beaucoup de trucs comme ça. Donc c'est après, il faut trouver le bon psychiatre, tu vois, celui qui va te comprendre. Puis c'est tellement subtil parce que c'est
pour ça qu'une fois, essayer des psychiatres, ça c'est important d'essayer.
Oui, et puis il faut changer si ça va pas. Un bon psychiatre, un bon psychanalyste, un bon psychologue, normalement ça doit résonner en toi. Si ça résonne pas, il faut changer. C'est pas grave, tu vois. Tu dois pas, c'est pas à toi de plier ta personnalité ou ta problématique en fonction du diagnostic.
On est tous d'accord là-dessus, ça c'est fou. Tous les gens qui ont eu des psys, veut dire faut essayer plusieurs psys.
Bien sûr, parce que mais après tu peux aussi tomber sur le meilleur pour toi en premier, tu vois. Moi, c'est un psychiatre qui m'a aidé à la sortie de la cure. J'ai dit, allez, je retente un psychiatre. Je m'assois dans son bureau. On m'a dit, lui, il est top et tout. Ça fait 8 fois que vous nous dites
c'est comme les ostéos. C'est un génie. Alors, lui, c'est un génie.
Je m'assois en face de lui et je me rappelle, je commence à lui parler un peu de mes problèmes, de mes sensibilités, de mon enfance, de machin. Il m'écoute pas du tout. Il m'écoute pas. Il me fait vous endormez en classe. Je dis ouais. Okay. Je lui parle et tout. Et il me pose que des questions hyper premier degré sur d'autres trucs qui n'ont rien à voir.
Il était avec un TV magazine. Il faisait un horoscope.
Vous avez un maximum de triangles. Vous êtes chafouin, mais pas trop.
Vous êtes Donald Duck. Vous êtes Donald Duck.
Espiègle, mais nerveux.
Donc voilà. Et il me pose 1000 questions et tout. Et lui, la première chose qu'il m'a dit, c'est ah, vous avez un trouble de l'attention avec hyperactivité. Et je lui dis oui, je suis hyperactif. Il me dit non, il dit, je suis pas hyperactif. Il dit c'est pas un mot comme ça qu'on donne parce que t'as un enfant qui aime bien faire beaucoup de vélo, il en fait plus que ses camarades, il est un peu hyperactif. C'est le problème aussi des maladies psychiatriques, c'est que c'est devenu des trucs très quotidiens. Comme ça.
Oui, puis en plus, comme on les utilise un peu n'importe comment, comme schizophrène, n'importe quoi, c'est que du coup, quand tu t'auto-diagnostiques, tu te dis, mais non, je peux pas être hyperactif parce que des fois, je suis crevé. Ou parce que, en fait, mais si, parce que dans l'hyperactivité, il y a le fait d'être obsessionnel et donc de se mettre à fond. Tu vois, il y a un truc de dire, mais non, je suis hyper concentré des fois. Tu fais, ouais, mais c'est de l'hyperactivité, ça. Et en fait, il y a ce truc où, comme on dit, ouais, dépressif, c'est si, hyperactif.
On connaît pas les. On
l'utilise
pas.
Dans le langage courant, des termes qui sont des termes. Comment dire réellement médicaux.
Ouais, c'est ça. Et en fait, il faut on utilise mal les termes, on les connaît pas, on sait pas ce que ça veut dire. Et un hyperactif peut être extrêmement fatigué justement parce qu'il peut s'épuiser très vite ou pas. Enfin, il y a mille manières en fait d'avoir une hyperactivité. Puis selon l'activité que tu vas lui demander, ça va plus ou moins le fatiguer parce que ça va taper sur. Donc, et chaque truc est comme ça. Et donc quand tu trouves un psychiatre qui comprends ton. Tu vois, par exemple, quand ils m'ont dit que j'étais au potentiel, et ils m'ont dit, au potentiel, moi, j'ai pas cherché à savoir. Je m'en foutais complètement quand ils m'ont dit, vous êtes au potentiel. Moi, j'ai juste vu. La seule chose qui m'intéressait dans le côté au potentiel, c'est que le schéma trouble de l'attention et hyperactivité au potentiel crée un truc qui fait que le haut potentiel annule ou augmente certains aspects du TDAH, et le TDAH annule ou augmente certains aspects du HP. C'est ça qui m'intéressait, moi, parce que du coup, je me suis dit, mais comment on n'a pas pu me déceler TDAH ou HP quand j'étais jeune? Et donc, ce psy m'a dit, tu sais, parce que ce profil-là fait que c'est très complexe, en fait, parce que chacun est différent, et ça peut augmenter ça peut annuler ça.
Parce que
donc,
justement, on va te faire un test classique. Pas les trucs de Téléstar avec un maximum de triangles.
Des trucs sur Facebook pour dire, êtes-vous un génie? C'est pas...
Ah oui, les tests de... c'est exactement ça, les trucs de répondre à ces 40 questions pour voir si vous êtes haut potentiel. Tu dis, oui, bon...
J'aimerais juste apporter un élément de réponse, si tu veux bien...
À quoi?
Par rapport à ta question, en fait.
Ma question, j'ai une psychiatre... Qu'est-ce qui est mieux après?
Ouais.
Qu'est-ce qui est mieux dans la vie d'après?
C'est pas ça. J'ai une psychiatre qui me disait... Je lui avais dit, putain, c'est ouf, moi, ce que j'aimerais, c'est juste prendre du plaisir. J'en ai marre de souffrir, je veux prendre du plaisir. Elle me dit...
Pas mettre à sucer.
Pas vraiment.
Okay.
Mais elle m'a sucé mentalement parce qu'elle m'a apporté.
Parce que je regarde trop de porno, donc des fois, quand ça commence comme ça, j'imagine. Enfin, je me dis, c'est comme ça que ça se passe, non? Ça m'arrive jamais, j'aime pas, je suis un incel maintenant.
L'idée, c'est. Elle me dit, mais vous, votre vision de la vie, elle est pas. C'est pas ça la vie. Elle me dit, c'est pas ça la vie. Elle me dit, soit vous êtes malheureux, soit vous êtes heureux, mais la plupart du temps, il n'y a rien. Il ne se passe rien. Et quand il ne se passe rien, dans ce rien, il y a des petits plaisirs. Et la vie, c'est des petits plaisirs, des fois. Et dans la tête, c'est pas genre, je me sens trop bien. Parce que moi, quand j'allais mal, ce que je voulais, c'était me sentir bien. Parce que j'oscillais entre deux émotions, genre « Ah, je suis bien, j'ai plein d'idées, je suis pas bien, là, j'ai envie de crever, tout ça. » Le travail de psychiatrie m'a amené à juste être bien. Il y a le chien qui joue, c'est sympa. Et ben voilà, me contenter d'un « c'est sympa ». Et « c'est sympa », c'est devenu bien. Maintenant, il y a des moments d'euphorie. Mais le moment d'euphorie...
En gros, l'absence d'euphorie, ça te faisait partir en mode...
Mais c'était un vide, l'absence d'euphorie.
Tu mets le doigt sur un truc qui est ultra important. C'est terrible en même temps, c'est très frustrant, mais en fait, c'est ça. C'est que, en fait, la vie n'est qu'équilibre. C'est-à-dire que si tu regardes, tout autour de toi n'est qu'équilibre. Que ce soit une conversation, une vanne, tu vois, par exemple... souvent les tiennes, il n'y a pas de chute, donc elle n'est pas équilibrée.
Quand il dit une vanne, il m'a montré, et après il s'est dit ça fait deux fois, c'est pas sympa, j'ai déjà dit qu'il était beau, je peux lui dire qu'il est drôle.
Mais il a dit que t'étais pas marrant.
Oui, c'est ça. Il a rattrapé,
il a dit, je vais pas lui dire qu'il est drôle. Parce que là, tu réponds comme si j'avais fait un sous-entendu, alors que j'ai dit un truc très clair.
Non, justement, j'ai dit, d'abord il m'a dit une vanne, il m'a regardé.
Et après,
il m'a tué en disant que j'ai déjà dit qu'il était beau, je peux pas tout lui donner, c'est vrai. Sinon, qui serais-je?
Donc, mais tu vois ce que je veux dire, tout n'est qu'équilibre. Il n'y a rien sur cette terre qui n'est pas équilibre. Et en fait, tu t'aperçois que finalement, la règle du jeu dans cette vie, elle est assez simple. C'est qu'il faut respecter l'équilibre. Dès que tu es dans l'extrême de quelque chose...
C'est vraiment la règle de la vie.
Ben oui,
c'est la règle de la vie.
Dès que tu es dans les extrêmes, ça ne marche plus. Tu bois trop, ça marche plus. Tu vois, il faut essayer de trouver un équilibre. Et donc, on est effectivement, généralement, dans la recherche de sensations extrêmement puissantes, extrêmement fortes. Et du coup, effectivement, on se
déséquilibre. Parfois en amour, dans le travail, dans les relations avec les gens, on veut du shoot, quoi. Et peut-être que ce qui t'attend après, parce que tu disais, qu'est-ce qui t'attend après, tu vas peut-être moins mal.
Je pense au mec ou à la meuf qui est en train de regarder en disant « Ah, ça ressemble un peu à ma vie,
ouais,
mais
et ben,
comme
en
je
fait,
me lève qu'il... le matin qu'une grosse boule dans le ventre et que quand je bois, j'ai la sensation que ça va mieux, ça me donne envie de pleurer et de partir en courant quand on me dit que je vais arrêter de prendre le seul truc qui me fait oublier que je ne vais pas mieux.
»
Non, parce qu'en fait, ce qui se passe, alors je vais être un peu plus...
J'ai pas le truc sur l'alcool, pardon, excuse-moi, j'ai pas le truc sur l'alcool exact, juste... qui m'a attendu après l'état de mal. Je pensais à m'attendre à de l'euphorie. Je prends beaucoup de plaisir à contempler aujourd'hui.
Ça se rejoint en fait. C'est que tout à l'heure,
je ne suis plus dans l'action de la recherche, je suis dans la contemplation.
Je me suis levé, j'ai pris ma douche, j'ai joué un peu avec mon chien, j'ai pris mon scooter, j'étais content. En fait, c'est la
vraie
vie.
J'ai marché jusqu'à dans la rue.
C'est accepter la vraie vie en disant, bah, en fait, c'est cool.
C'est pas mal. C'est pas si mal, tu vois. Ouais. Alors que des fois, tu dois quand même lutter. C'est l'équilibre. C'est quand c'est ta structure mentale et que ton logiciel il est baisé, bah, c'est la structure. Et ça, ce qui t'apporte ça, c'est un bon entourage. Des gens en qui tu peux avoir confiance, des gens qui t'aiment et des gens qui ne sont pas intéressés par ta fréquentation, un cadre de vie, une hygiène de vie.
Pas intéressés par ta fréquentation. Ah, tu veux dire qu'ils ne te fréquentent pas pour les mauvaises
raisons.
Pas
par intérêt. Ouais. Une hygiène de vie que tu crées autour de toi. Tu dis, bah oui, par exemple, tu parles du sport. Si je ne fais pas de sport, à un moment donné, le curseur, il va aller.
Chewbacca. Il y a Chewbacca qui arrive. Si je ne fais pas de sport, Chewbacca arrive.
Mais il n'y a pas cette promesse du ça va être vachement mieux. Par contre, il n'y a plus d'angoisse.
En fait, c'est ça.
Tu peux vivre sans angoisse, mais sans vivre de l'euphorie.
Et puis, il y a deux choses. C'est que, de toute façon, la première chose à faire, il faut quand même être assez méthodique et ramener des choses à des choses un peu concrètes. Quand tu te drogues, tu ne peux pas ne pas être angoissé. Parce que les drogues sont des dépresseurs. Donc, ça génère de l'angoisse et ça t'en provoque de plus en plus. Donc, déjà, de base, tu ne peux pas, quand tu es dans un état d'addiction, tu ne peux pas être détendu. Ça n'est pas possible. Tu seras détendu après un certain degré de drogue que tu devras augmenter au fur et à mesure du temps.
On a compris l'histoire. Piège.
Donc, déjà, c'est le piège. Après, t'as deux schémas. Soit tu n'es que addict et tu n'as pas, entre guillemets, d'angoisse maladive ou tu n'as pas un schéma psychiatrique fragile. Donc, a priori, si tu te sevres et que tu reprends ta vie en main, c'est-à-dire des trucs de base, hein, être bien entouré,
se rendre compte d'être bien entouré, c'est aussi un travail.
Ça fait partie de donc éliminer les gens toxiques, rester avec des gens chouettes, des gens qui te font du bien, reprendre son alimentation en main, boire beaucoup d'eau. Je suis désolé, hein, mais c'est des trucs.
C'est ça basique. Peut,
je me fous complètement, mais on dit boire beaucoup d'eau. Ben oui, mais c'est la vérité. Boire beaucoup d'eau, faire du sport et avoir une vie épanouie professionnellement et amoureusement, amicalement, etc. C'est la base de l'être humain. C'est très cliché, mais c'est un fait, tu es obligé d'avoir ça. Après, si tu as des troubles psychiatriques, par exemple, comme moi je peux en avoir, de toute façon, les drogues vont amplifier le phénomène. Donc,
y compris l'alcool. Toutes
les drogues. Donc, de toute façon, si vous avez des problèmes psychiatriques, les drogues, c'est de l'huile sur le feu. C'est mathématique. Donc, c'est réglé. Donc, déjà, je ne vais pas te promettre que si tu arrêtes de boire, tu n'as plus cette boule dans le ventre. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que plus tu vas boire, plus cette boule, elle va grossir. Et que tu vas te retrouver au bord d'une fenêtre ou je ne sais où. Donc, ça, c'est une certitude. Si tu veux avoir la gargouille. Il faut rester la gargouille. Si tu veux avoir une chance que cette boule diminue, voire disparaisse, il n'y a qu'en étant clean que tu peux travailler dessus. Moi, je ne comprends pas, par exemple, les médecins généralistes qui prescrivent des antidépresseurs à des gens sans avoir vérifié avant que ces gens avaient juste un système de une hygiène de vie bonne. Filer des antidépresseurs à quelqu'un qui boit, pour moi, c'est scandaleux. Je trouve ça scandaleux. Je trouve que les médecins généralistes ont un peu la main lourde sur les antidépresseurs. Tu vois, je trouve ça incroyable. Les antidépresseurs, il y en existe des centaines, peut-être même des milliers. Il faut quand même des notions de psychiatrie que les médecins généralistes n'ont pas. Et moi, je l'ai vu dans mon médecin de ville qui prescrivait des Xanax et des anxiolytiques et des machins. C'était des... T'as une entorse à la cheville, voilà. Et puis prenez des petits Xanax, ça va vous aider à dormir. On était dans le mec, il a donné du Xanax. Donc...
C'est le dealer de ton quartier.
Donc, ce que je veux dire, c'est important. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, la base, déjà, si t'es pas bien dans ta vie, s'il y a un problème dans ta vie, déjà, est-ce que je dors correctement? Est-ce que je fais du sport? Est-ce que j'ai une bonne hygiène de vie? Est-ce que mon entourage est cool? Est-ce que mon métier me plaît? C'est quand même des trucs très basiques. Si tu vas pas bien dans ta vie, déjà, commence par éliminer les drogues de ta vie, parce que de toute façon, si ton corps ne va pas bien, ton esprit ne peut pas bien aller. Donc, je suis désolé, tout ça peut paraître extrêmement cliché, etc., mais c'est la vérité. Après, je vais pas promettre aux gens qui ont des problèmes addictifs que quand ils vont arrêter, tout va être que la vie va être parfaite, parce que ça serait mentir. C'est le début du match. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, si tu continues de te droguer, tu détruis tout. Donc, ta seule chance de t'en sortir, c'est d'arrêter. Et après...
Du coup, cette impression dans l'instant que l'alcool me fait du bien ou que la drogue me fait du bien parce que je me sens pas bien ce matin,
c'est fictif.
C'est faux.
Mais c'est à court terme, c'est qu'au début.
C'est faux. Et effectivement. Et un jour, tu travailles le matin et tu te fais deux shoots de vodka ou de whisky et tu ne ressens plus rien. Alors là, et c'est là où tu te retrouves après au bord d'une fenêtre. Parce que là, ça ne te fait plus rien du tout. C'est-à-dire que tu ne ressens plus rien. C'est-à-dire que l'angoisse reste la même.
Et là, ça génère encore plus d'angoisse derrière.
Rien que d'en parler,
il est encore plus.
Rien que d'en parler, là, je me rappelle de ces moments-là où je bois le matin, ça ne me fait plus rien. Et là, j'ai dit, ah putain, alors là.
C'est quoi, c'est une sorte de rhum arrangé ? C'était quoi, c'était...
Moi, je buvais du rosé.
Du rosé.
Pratiquement que du rosé. Donc, ce que je veux dire, c'est que. Il n'y a pas de. En fait, il faut arriver à comprendre, il faut arriver à mettre dans sa tête que la drogue n'est plus une option. Je vais pas bien, la drogue n'est plus une option possible. Ça n'est pas une, ça n'est pas une possibilité.
Courageux, c'est très courageux. Non, mais c'est courageux. C'est courageux.
T'es obligé de te dire ça dans ta tête. Sinon, si quand t'es pas bien, le rosé, la coke, l'héro, ce que tu veux, reste une option, un jour, tu vas y aller. Tu comprends? Tu peux pas passer ta vie. En fait, quand tu rentres en cure de désintoxication, moi, juste avant de rentrer, je suis devant les portes de la cure. Et je m'imagine, j'ai cette vision de moi, en haut d'une colline, en train de regarder un paysage magnifique avec un soleil qui se couche, et je me dis, putain, j'aurais même pas une coupe de champagne ou un petit rosé à ce moment-là. Mais c'est dramatique.
C'est de l'association, ça.
Oui, c'est de l'association. Mais en fait, c'est dramatique. Ça veut dire que tu ne peux pas profiter de ce coucher de soleil, de ce moment, sans alcool. C'est dramatique.
C'est ça que tu ne t'es pas imaginé le moment où tu allais hyper mal et où tu as besoin d'un verre. Tu as imaginé un moment qui, en soi, pouvait être parfaitement joyeux et paisible et cool, mais en disant, bah, s'il n'y a pas l'alcool, il va être nul ce moment.
Parce que tu veux plus. C'est ce que disait Kian tout à l'heure. C'est qu'en fait, tu recherches toujours l'alcool. Moi, je ne buvais pas que quand j'étais triste. Je buvais tout le temps. Et quand j'avais des grands moments de joie, je voulais boire aussi. Parce que je voulais ressentir encore plus. C'est vraiment ça, l'addiction. C'est quand tu commences à vouloir augmenter tous les moments de ta vie. C'est en fait, tu veux booster toutes les émotions de ta vie. Donc, quand tu es triste, tu bois, tu veux être encore plus triste. Quand tu es heureux, tu bois, tu veux être encore plus heureux. Et c'est comme ça que tu tombes dedans et que tu détruis absolument, absolument tout. Donc, tu vois, par exemple, quand j'étais en cure, on m'a dit, tu vas voir de plus en plus dans ton entourage, tu vas voir qu'en fait, il y a plein de gens qui ne boivent pas. Alors, je dis, oui, c'est mathématique, je ne vais plus boire, donc les gens qui boivent vont plus m'inviter, donc je vais... Mais en fait, non, ce n'est pas ça. Je te donne un exemple. Tu ne bois plus, donc tu vas boire un verre en terrasse. Après le boulot, je sais pas, tu vas boire en terrasse avec tes potes, 19h, 20h, t'es en terrasse. Bon. Si t'es au Perrier, au bout de 2 heures, tu vas vouloir bouffer. Ou tu vas vouloir rentrer. Ou tu vas. Enfin, je veux dire, t'as fait un peu le tour, surtout si les gens autour de toi boivent.
Rentrer.
Ou rentrer, voilà.
Rentrer, vous dites, je bois pas, donc rentrer.
Voilà, tu vas rentrer. Moi, si je me mets en terrasse à 19h30 ou 20h, à 22h, je mange pas. Je suis au Mojito, je bois des trucs, machin. Donc. Tu vas plus être dans un Uber à minuit ou minuit et demi, tu vas être dans ta voiture ou en scooter à 21h30. Tu rentres chez toi. Tu vas pas voir la même chose à la télé. Tu vas pas regarder la même chose. Tu vas pas te lever à la même heure. Donc ton sport, tu vas pas aller le faire à 11h ou à midi ou à 13h, tu vas aller le faire à 7h ou 8h parce que tu seras levé. À la salle de sport, tu vas pas croiser les mêmes gens parce que c'est pas un jeudi à 7h du matin, t'as des gens qui vont, par exemple, faire du sport. Je caricature un peu, mais c'est pour qu'on comprenne. À 7h du matin, dans une salle de sport, un jeudi, t'as des mecs qui, a priori, sont des putains de motivés de la life, qui disent, moi, je commence mon boulot à 9h. À 7h, je suis à la salle de sport pour faire du sport. Donc, les gens que tu vas rencontrer, que tu vas croiser, c'est plus des gens qui ont plus ta manière à toi de vivre. Si tu fais du sport à 13h dans ta salle de sport, bah, tu vas pas rencontrer forcément les mêmes gens. Et en fait, c'est un exemple un peu caricatural que je donne pour dire qu'en fait, petit à petit, tes habitudes changent, les endroits que tu fréquentes changent, du coup, les gens que tu rencontres changent, ta manière de vivre change et tu as d'autres plaisirs.
Intéressant.
Moi, quand je... Tu vois, là, hier, je vais te donner un exemple. Hier soir, je suis allé courir vers 20h à peu près. J'étais en train de courir. Et donc, je traverse le petit village dans lequel j'habite et je voyais plein de gens en terrasse. Et je dis, regarde, c'est très intéressant. Il y avait des gens en terrasse, à droite, qui étaient en train de boire l'apéro et de bouffer, etc., etc. À gauche, tu avais des mecs qui jouaient aux boules. Et moi, j'étais en train de courir. Bon. Donc, j'ai vu ces gens qui étaient en train de boire du rosé, le rosé que j'aimais tant quand je buvais encore. Et j'ai vu ces gens qui étaient en train de boire du rosé. Et après le village, je me retrouve sur une route de campagne, tout seul. Tout au bout de la route de campagne, il y a cette espèce de coucher de soleil. En plus, hier, c'était un poil nuageux, mais pas trop et tout ça. Donc, tu as des espèces de nuages un peu roses, etc., etc. Et donc, je suis en train de courir sur cette route, comme ça. Je suis en train de courir. Il y a une espèce de vent chaud un peu qui arrive, etc. Et à un moment donné, je me sens hyper bien. Il y a une musique dans mes écouteurs qui se met, l'une de mes musiques préférées. Et à un moment donné, ça ne dure pas longtemps.
Les sardines.
Et pendant 1 minute, 1 minute 30, je suis là. Et je me dis, putain, j'ai un vent chaud. Je suis en train de courir. Là, j'ai toutes les drogues de mon corps, du sport qui sont en train d'arriver. Et je suis en train de voir ce coucher de soleil. Et je me dis, tu vois, si je buvais encore, je serais là-bas en terrasse en train de boire du rosé. Et je regarderais quoi ? Mon verre de rosé. Et là, je suis là. Donc, au fur et à mesure que tu te détaches de tes addictions, tu as des plaisirs qui arrivent, d'autres. Le cerveau, il est extrêmement bien fait. Si tu lui enlèves quelque chose en lui disant ça, c'est fini, il va trouver du plaisir ailleurs. Donc, ce que je peux dire aux gens qui ont des addictions, c'est faites confiance faites-vous confiance. Faites confiance à votre cerveau, faites confiance à votre corps. Le cerveau, si tu lui enlèves quelque chose, il finit toujours par le remplacer par autre chose. Alors après, moi, je suis tombé dans un mécanisme un peu extrême de l'autre côté, donc je n'ai pas encore trouvé mon équilibre, c'est que je suis devenu l'inverse. C'est-à-dire maintenant, je fais ultra attention à ce que je mange, ultra attention à l'heure à laquelle je me couche. Mais voilà, tu vas retrouver donc je suis dans un mécanisme extrême de l'autre côté, mais ce n'est pas grave, je l'accepte, parce que je sais que j'ai besoin de ce temps de mécanisme.
Et il est positif par rapport à ta vie. Il est constructif, il n'est pas destructeur.
En tout cas, il détruit plus rien, il construit. Alors du coup, je suis quand même... mes journées, c'est un peu nimbe, parce que j'ai tendance à les surblinder pour être tout en train de faire quelque chose, etc. Donc, il n'y a pas encore une espèce de tranquillité, d'apaisement qu'il faudra que je trouve à un moment donné. Mais, en tout cas, j'ai trouvé un nouveau système qui, pour le moment, n'est pas destructeur.
C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné ?
Le meilleur conseil qu'on m'a donné dans la vie, je m'en souviens très bien. Je vais faire court. Hein. Ça va sembler comme un truc très long que je vais dire, mais c'est court.
J'étais avec mon casque. Il y avait un air chaud.
Non, c'était quelques jours avant de rentrer en cure de désintox. J'avais dit, OK, je vais en cure de désintox. Donc, tout mon entourage était assez soulagé. Et je cherchais n'importe quelle excuse pour ne pas y aller. Et donc, il y en a une un jour, on me dit, par contre, vous serez deux par chambre. Alors, à ce moment-là, ça m'a semblé être une occasion parfaite de dire que donc, c'était impossible, que je n'allais pas être deux dans la chambre. Donc, je dis, non, si c'est ça, j'y vais pas. Et puis, je trouve plein d'arguments. Hein. Je trouve des arguments vraiment hyper béton avec mon entourage.
T'écris des spectacles, donc, à mon avis, les arguments, tu les trouves faciles.
Je trouve plein d'arguments. Et c'est crédible sur le moment. Alors qu'en vrai, il n'y a pas d'argument. On s'en bat les couilles, soit deux par chambre. Tu vois. Évidemment, tu vas dans une cure de désintox, ils ne vont pas te laisser tout seul. Tu vois. Donc, on est devant. Et là, il y a un ami à moi qui s'appelle Mourad, qui m'appelle, qui est un mec qui est passé par ses problèmes d'addiction, qui m'appelle et qui m'a donné ce conseil génial. Qui m'a dit, écoute, pendant 30 ans, tu n'as fait que ce que tu voulais faire et ça t'a amené au bord d'une fenêtre. Pourquoi pendant un mois, tu n'essaierais pas de faire ce que tu n'as pas envie de faire ? Ce conseil, il est magique.
Il a du coup.
C'est très, très sur le suçage.
Mais c'est une addiction.
Je pense qu'il a conclu quand même. Il a conclu environ 15 fois dans cette émission par... Et je me suis fait sucer. Et là, il m'a sucé. Et du coup, tu l'as sucé.
Moi, j'ai plus le droit de poser des questions, je dis sucé.
Si vous faites un gif de moi qui regarde Navo comme ça et qui fait...
On va juste mettre tous les suçages.
Faites des petits boomerangs de suçage de
sucé. Est-ce que tu peux écrire un spectacle où je me fais sucer ?
Pas mettre à sucer.
Et il l'a sucé, du coup.
Et je trouve que ce conseil, il est super parce qu'en fait, quand tu réfléchis, quand tu vas pas bien, tout ce que tu n'as pas envie de faire, c'est ce que tu dois faire pour aller bien. Quand tu vas pas bien, tu as envie de mal manger, tu as envie de parler à personne, tu n'as pas envie de faire de sport.
J'allais le dire pour l'entourage, c'est que souvent ton entourage, celui que tu aimes bien, quand par exemple tu es alcoolique ou que tu vas pas bien, c'est celui qui te dit ce qui t'arrange, alors que tes vrais potes, c'est ceux qui te disent le truc qui t'arrange pas. Et c'est un peu la même chose, c'est de dire, putain, il y en a un, vraiment, je vois bien que je l'évite. Parce qu'à chaque fois que je lui parle, il me met face à mes contradictions, il me met...
Bien sûr.
Et je préfère l'autre là-bas qui me dit « Wouh, shot !»
Bien sûr.
Il y a la même chose en toi.
On évite toujours...
Ce qui est intéressant, c'est que tu as aussi la même chose pour toi-même.
Mais complètement.
Ton pote, il t'a dit « Arrête d'écouter tes mauvais conseils puisqu'ils te foutent dans la merde. »
En fait, il m'a surtout dit « Fais ce que... » Mais vraiment, c'est ça, hein, je reviens. Faites ce que vous n'avez pas envie de faire. Souvent, la clé, elle est là. Ouais. Et ce qui est terrible, c'est que du coup, dans ton cerveau, tu as quand même quelque chose pour te dire ce qu'il faut faire. C'est tout ce que tu n'as pas envie de faire pour aller mieux.
Retourne ta boussole, quoi.
Ouais.
Ta boussole t'indique le... Elle te met le nord au sud. Donc, c'est pas si compliqué, va vers le sud.
Mais je l'avais mieux dit, mais c'est ça.
Non, c'est mieux quand moi je l'ai dit.
Est-ce que tu peux nous raconter, on va faire une mise en pratique de ton obsession. Est-ce que tu as eu des obsessions pendant l'émission, pendant que tu parlais ? Tu as eu des trucs auxquels tu étais bloqué ou tu étais dans un bon moment présent ?
Non, j'en ai eu quelques-uns.
Tu as eu des trucs comme ça ? Tu as eu des merdes ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Pourquoi j'ai dit ça ? Pourquoi j'ai pas dit ça ? Tu as eu des analyses
Il y a mille trucs. Là, si je fais une analyse de l'émission, je me dis j'ai été brouillon. Le fait qu'on n'ait pas donné un vrai départ, ça m'a pas permis de mettre une énergie.
D'ailleurs, c'était la plus grande intro de l'émission. Bienvenue dans un bon moment. Je reçois Jérémy Ferrari. Je suis accompagné de Navo. Comment ça va, Navo ?
Mais ça va super.
On va faire des blagues.
Non, mais ouais, là, en fait, pendant tout le truc, je fais des... Et souvent, en fait, quand...
Oui, tu ouvres des fenêtres, mais t'inquiète, on t'a ramené à chaque fois dans les racines.
Mais du coup, souvent même... parfois, je me dis, ah ben, il y a plein de trucs auxquels j'ai pari, j'aurais dû rire, parce que je vais passer pour quelqu'un d'antipathique. Mais souvent, je suis comme ça. Enfin, souvent, c'est pas drôle. Mais souvent, c'est juste parce qu'en fait, je suis en train de me dire, ah ben, alors, attends. Parce que comme là, il y aura dessus, il faut que je me rappelle de la phrase avec laquelle j'ai terminé pour bien reprendre la phrase. Bon, tu vois. Donc, en fait, oui, t'es tout le temps...
Souvent, c'est pas drôle.
Est-ce qu'on peut conclure par le fait qu'on a eu tous les trois des passages extrêmement compliqués où la vie était à un moment donné remise en cause et que d'être allé chercher un peu, ça va, au final, c'est quand même mieux maintenant.
En fait, moi, je rejoins vachement ce qu'a dit Jérémy tout à l'heure, ce que je trouve qu'on n'a pas assez souligné. C'est quand il a dit « Je ne regrette pas d'avoir bu, mais pourquoi ?» Tu disais parce qu'à l'époque, avoir
faire,
un problème,
j'avais pas d'outils.
Limite, le conseil qu'on allait te donner si tu ne te sens pas bien, c'est bon un coup. C'était pas « Va voir un psy, soigne-toi ». Et je trouve ça hyper intéressant que tu parles des maladies invisibles, parce que je connais pas mal de gens qui en ont, hein, puisque je travaille dans le showbiz déjà. Mais en vrai, faut se dire, c'est des vraies maladies. Et je connais très peu de gens, quand ils se cassent la jambe ou quand ils ont un problème au foie, qui disent « je vais chercher un couteau de cuisine, je vais ouvrir, je vais le faire moi-même ». Le problème avec les maladies psychologiques, c'est qu'on est persuadé culturellement, il y a un truc où on pense que, mets-toi un coup de pied au cul si t'es dépressif, etc., que tu peux te soigner tout seul. Et les seuls médicaments qu'on nous donne pour soigner tout seul, c'est des drogues.
Bien sûr.
Parce qu'on ne peut pas accéder aux médicaments. C'est-à-dire que l'idée qu'on s'est faite des médicaments, c'est qu'ils sont interdits, ils sont sur ordonnance, parce que ce serait dangereux de s'auto-médicamenter. Mais à côté, on te donne de l'alcool parce que c'est aussi récréatif. Il y a des drogues qui sont accessibles, même si elles sont illégales. Et du coup, on s'auto-médicamente en se disant ça va aller mieux, ça donné la pêche, tu te sens pas bien, bois ça. Voilà. Moi, j'ai des potes, je fume un truc, je fais wow, ça me fait tourner la tête. Ils disent bah, fume celui-là, tu vois, ça va te faire redescendre. Je suis pas sûr.
Et puis, il n'y a pas de vrai dosage aussi. L'alcool n'est pas dosé. Un médicament est dosé.
C'est ça. Et donc, du coup, pour moi, ça revient. Si tu vas pas bien et que tu bois un verre parce que tu vas pas bien, ça revient à avoir mal au genou. Et dire, je vais m'opérer tout seul et vraiment prendre ton couteau et faire ça et dire, bah, ça va aller, je suis sûr.
Et c'est pas parce que c'est invisible que ça n'a pas d'impact physiquement dans la vie et bien c'est destructeur.
Une maladie mentale, c'est aussi grave qu'une maladie physique.
Ça peut être juste un circuit électrique dans ta tête, ça a des impacts physiques.
Bien sûr.
Ça a des impacts. Tu peux terminer avec une blessure, tu peux terminer avec une blessure sur le très long terme, tu peux détruire ta vie de manière. Perdre des amis qui étaient importants pour toi, tu peux vraiment. Ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est pour ça qu'on disait dans le spectacle. J'ai compris qu'il fallait. C'était cool d'aller voir un psy, même quand ça va bien.
Bien sûr.
Parce que c'est le meilleur moyen de, justement de pister un peu les trucs. On a de la chance, on a un système quand même médical, on peut aller voir des.
Non, et puis de toute façon, on va pas se mentir. Tu vois, le problème, c'est qu'on a tendance à. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on a tendance à ne se focaliser que sur les émotions extrêmement fortes. Donc, quand tu arrêtes de boire, tu sais, quand tu sors de la cure, ils te disent vous allez traverser un pink cloud. Je dis, ah bon, un pink cloud. Et effectivement, pendant 3 mois après la cure de désintox, tu te sens surhumain. Tu te dis, mais je suis tellement heureux sans drogue, mais comment j'ai pu me droguer? Je suis tellement bien, je suis tellement fort sans drogue. Et ce truc dure 2-3 mois.
Tu deviens Louis de Funès.
Pendant 3 mois. 3 mois. Selon le personnage du film, il y en a, ils deviennent Villeray. Voilà. Donc pendant 3 mois, t'es dans un truc comme ça, t'es à donf. Et après, ça redescend. Et ils te disent, c'est quand ça redescend que généralement les gens reboivent.
C'est là que tous les crétins qui font du développement personnel sur YouTube lancent leur chaîne en général.
Voilà.
Oh putain, j'ai tout compris, je vais faire une chaîne. Après, ils sont obligés de la tenir et des abonnés.
C'est ça. Donc quand tu redescends, là, tu ne ressens plus cette joie et cette force, tu ressens juste la vie normale. Et c'est généralement là que tu commences à te dire, ah ouais, mais en fait, c'est pas mieux avant. Mais si, parce qu'en fait, juste un lundi où il ne s'est rien passé, en fait, tu as été beaucoup plus heureux qu'un lundi où tu as été bourré du matin au soir, où tu as insulté des gens dans la rue, où tu as fait de la merde professionnellement, où tu as envoyé des textos que tu regrettes le mardi matin, où tu te retrouves dans un pub avec quelqu'un que tu connais pas. Enfin, tu vois. Et en fait, c'est ça la différence. C'est qu'il faut pas rechercher des grands moments de magie. C'est ça. Juste, tu arrêtes de détruire ta vie.
Et puis, il y a du plaisir, comme tu dis, il y a des plaisirs. C'est là où tu commences à devenir... stable et tu te dis ah putain en fait c'est cool le moment est sympa. En tout cas personnellement je t'ai rencontré il y a plus de 10 ans déjà.
Ouais.
Je t'ai rencontré plusieurs fois, tu jouais au temple, t'avais un t-shirt orange.
Orange,
tu te rappelles ou pas? T'avais un t-shirt sur l'affiche, t'avais un t-shirt orange.
J'avais pas un t-shirt orange.
Si, t'avais un t-shirt orange.
Mais non.
Ou violet.
Non, non.
Si, t'avais un t-shirt
orange ou violet, donc déjà ça
j'ai toujours eu un t-shirt noir.
Des couleurs pas du tout proches, orange ou violet ou bleu. les trois couleurs les plus proches.
Il y avait une couleur, tu avais pas
montré. T'avais un t-shirt.
C'est pas ça que je veux dire, c'est qu'à l'époque, je te...
Non, mais quand même, c'est à Orange.
Je t'avais rencontré et j'ai commencé à bien m'entendre avec toi moment où tu avais arrêté tout ça? Le moment après, en fait. Parce que j'avais un truc, j'avais du mal à te cerner, j'avais du mal à comprendre ce que tu ressentais. Enfin, il y a du mal, quoi. Et à l'intérieur, je me dis, hop, je sais pas, j'arrive pas à connecter. Et on a connecté après.
Oui.
Et c'est là où on a pu construire des rapports, s'appeler, dire ça va, machin, discuter, puis parler des.
Et aussi, je tiens à dire ça aussi, c'est que, évidemment, que quand tu trouves un équilibre, évidemment, que tu te sens mieux de manière générale, tu es beaucoup plus heureux de manière générale, tes bas sont beaucoup moins bas, tes hauts sont un peu moins hauts, mais tes bas sont beaucoup moins bas. Et encore, les hauts, je suis même pas sûr, parce que les moments de joie, ça reste des moments de joie. Tu dors mieux, tu manges mieux, enfin, tout, je veux dire, tout va vachement mieux. Donc, de manière générale, toutes les angoisses sont diminuées par moitié, voire parfois 100%. Il y a des vrais moments de plénitude où tu te sens hyper bien. Et professionnellement, et ça, c'est intéressant, et là, je m'adresse plutôt aux artistes, etc., c'est pas vrai que tu crées moins bien ou tu es moins prolixe quand tu bois, hein,
oui,
ou quand tu te drogues. Ça, c'est de la rationalisation à l'état pur. Moi, pardon, hein, mais moi, je suis mort de rire quand je vois des gars nous expliquer que c'est grâce à la drogue qu'ils créent, etc. Il y en a qui vont m'expliquer que si, mais moi, je ne vois qu'un drogué qui rationalise. Je vois que ça. En cure de désintox, si tu aurais même pu prendre Gainsbourg, tu l'aurais mis en cure de désintox et il nous explique par A plus B que c'est grâce à l'alcool qu'il crée, je peux t'assurer que tout le monde dans la salle est mort de rire. Il y a que quand tu vis le truc de l'intérieur, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Tout ça, ça s'appelle de la rationalisation. Moi, je crois être un bon exemple. C'est vrai que ça n'a pas impacté mon écriture quand je buvais. Je pense avoir écrit des trucs chouettes quand je buvais. Je ne bois plus. Ça fait 5 ans que je ne bois plus. J'ai jamais autant écrit. Et je crois que je suis maintenant même un peu meilleur. Je suis plus précis dans mes textes. Je suis plus précis dans mon jeu. Je suis plus précis dans mes mises en scène. Et surtout, je crée beaucoup plus.
Et tu es plus lucide aussi sur ce que tu fais. C'est-à-dire quand tu es moins bon, tu es lucide. Mais quand tu es meilleur, tu es lucide aussi.
Ah, j'imagine que tu es plus stable aussi sur la longueur. Parce
bien
que
sûr.
Parce que pour les quand tournées, tu te déchires la gueule, il doit y avoir des moments où tu es sur scène, mais tu n'es pas vraiment là.
Ouais, et puis ces moments. Et puis tu vois, les moments de transe dont on parlait, quand tu les vis. À jeun, putain, qu'est-ce que c'est puissant.
C'est bon, hein.
Alors là, pour le coup, ouais, bah tiens, regarde, ah, voilà, fou, type, là, ça, je peux donner un exemple. Ça, tu le ressens 10 fois plus à jeun.
C'est vrai.
C'est-à-dire que là, pour le coup, quand je suis sur scène, putain, quand je sors de scène, je suis tellement bien.
C'est vrai.
Je suis tellement bien. Alors que quand je sortais de scène avant, je sortais, allez, tiens, je vais boire une bière. Il y a de la bière, il y a un truc. Tu vois.
C'est vrai. En tout cas, merci Jérémy.
Merci à vous.
Est-ce que tu veux recommander un artiste que tu as kiffé récemment?
Ah ben, je vais pas être très objectif puisque je suis producteur.
Alors,
non, je peux vous parler. Non, mais pour le coup, je peux peut-être. Non, mais oui, ben, je vais quand même.
Il faut le réinviter très vite parce qu'en fait, on a fait vraiment que le.
On a fait une spéciale.
Moi, je voulais parler de comment il écrit et tout. Je voulais qu'on dise du mal de l'homéopathie pendant une heure.
C'est vrai qu'on a parlé que d'addiction.
On n'a pas eu le temps pour l'homéopathie. Est-ce qu'on peut juste dire c'est de la merde? C'est de la merde, voilà, comme ça.
Non, moi, je vous invite à aller découvrir le nouveau spectacle.
Allez voir les boulots parce qu'il en parle beaucoup dans le. Non, mais
Le nouveau spectacle du Capucine, enfin le premier spectacle Capucine, la ventriloque. Et il y a la dernière de Laura à l'Olympia. C'est dommage pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ça, c'est vrai que ça vaut
le coup. En tout cas, ça va être disponible sur le site Dark Smile Prod.
Darksmile.fr.
Voilà, darksmile.fr. Parce qu'en fait, vous autoproduisez les DVD. Vous produisez les. Ouais, mais c'est ça, vous ne passez pas par des majors, vous faites vous-même, vous les vendez. En B2B, comme on dit.
C'est ça.
Merci Jérémy.
Merci à vous.
J'espère que tu as passé un bon moment.
J'ai passé un bon moment.
Moi, je recommande la vidéo sur le surendettement de Eureka. Alors, il est compliqué son nom. H-E-U,
ah oui, très intéressant.
Pour l'interrogation, plus loin, Eureka. Regardez-la, même si vous croyez que vous n'êtes pas surendetté. Parce qu'en fait, il y a eu le Covid. Plus de gens qu'on ne le croit sont surendettés, y compris eux-mêmes, ils ne sont pas au courant. Mm-hmm. Et il y a toute une partie où il donne plein de solutions, comme c'était vraiment la galère en ce moment.
Ouais, c'est vrai.
Il y a moyen de te mettre en faillite et de trouver plein d'aide. Si là, en vérité, tu dépenses plus que ce que tu gagnes depuis trop longtemps, c'est bien d'aller regarder.
Allez voir, suivez Théo Babac sur TikTok, il est très drôle. Merci Jérémy, merci Navo, merci à vous d'avoir assisté à cette émission. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à rien faire. Soyez heureux. Voilà, partagez-la si vous voulez partager. C'est bien de partager, dire « Regarde, j'ai essayé ça ». Voilà. Si vous êtes sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas à mettre une bonne note. Comme ça encourage les gens à découvrir notre émission. Si vous voulez nous soutenir, on a plusieurs moyens de nous soutenir.
Nous soutenir, carrément.
Si vous voulez nous soutenir, on a créé unebonneboutique.com. Si vous voulez faire des petits cadeaux et tout, de bref, bloqué, de Serge le Mito, de tout ce que vous voulez, c'est disponible sur unebonneboutique.com. Et vous pouvez nous aider à participer à un bon moment et à ce que ça continue le plus longtemps possible.
Moi aussi. T'allais me dire je t'aime.
Moi non. En tout cas, merci d'avoir regardé l'émission Et puis, bah voilà, si vous avez des questions, bah, posez-les. Allez voir des psys. Ils adorent vous écouter. Ils sont payés pour. Prenez soin de vous. Salut.
C'est pour faire de rigoler des gens.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.